Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. Quelques remerciements. Bon, d'abord pour la librairie des Volcans et tout le travail effectué par son équipe, notamment Gaël qui me regarde au fond. Voilà, coucou. Nous sommes ce soir aussi honorés de la présence de Monsieur Paolo Piscu, pardon pour encore une fois pour mon accent, député des Portugais de l'étranger, donc sur sa circonscription, on peut le dire comme ça. Voilà. Voilà, je ne vais pas être long, simplement rappeler ce que nous sommes. Je suis secrétaire donc de cette association qui s'appelle Les œillets de la liberté, créée il y a 20 ans, de la volonté d'un certain nombre de personnes, de personnalités. Je citerai simplement, il faut lui rendre hommage, Pierre-Joël Bonté, que d'aucuns parmi vous ont connu, qui a permis la création de cette société. Et le couple président fondateur et secrétaire qui a œuvré pendant de 18 ans avant que des maladies les emmènent pour faire vivre cette association. En même temps, donc le 50e anniversaire de cette révolution des œillets, nous fêtons donc cette année nos 20 ans d'existence. Un petit peu abasourdi d'accord présent. Malgré donc les rangs qui s'éclaircissent et toutes les vicissitudes, Covid et autres. Mais c'est une grande joie, c'est une grande fête. Cette révolution des œillets, le 25 avril, a été une fête. Et pour lui rendre hommage, nous avons réalisé donc un programme de cet événement. Il en reste, avec celui d'aujourd'hui, trois. Puisque ce soir, vous avez une pièce de théâtre qui va être jouée à la maison de Loradou, 88, maison de rue de Loradou, pardon. Et compte tenu des difficultés pour circuler dans cette rue, si vous souhaitez vous y rendre, je vous conseille le parking du collège, il s'appelle Lucie Aubrac, je crois, maintenant. Voilà. Et donc, pour terminer, demain, un éminent collègue de Victor Pereira, Yves Léonard, qui sera présent à côté, à quelques pas d'ici, à la Maison des sciences de l'homme, Université Clermont-Auvergne, à l'amphithéâtre 129. Voilà, j'ai oublié parmi les remerciements une autre personne qui est ici, c'est Aurelio da Silva, qui a été membre de l'association pendant plusieurs années et qui a beaucoup contribué à ton premier passage en 2014 pour présenter ton ouvrage ou un de tes ouvrages précédents. Voilà, je le remercie de sa présence également. Voilà, je ne parle pas, j'ai pas parlé des événements qui ont précédé, mais quand même vous dire que ça a été une grande satisfaction. Nous avons eu une exposition à Rion, au centre commercial de Rion. Ensuite, nous avons commencé le 25 avril par la projection du film Capitaine d'Avril. C'était le bon jour pour le faire avec nos amis du Rio. Le lendemain, le vendredi, un concert de Fado qui a été apprécié. Nous avons eu 150 et quelques spectateurs. C'était un moment pour nous assez inoubliable. Voilà, et puis le traditionnel, ça on a pu le maintenir à peu près chaque année depuis 20 ans, repas festifs, dansants, pour commémorer ce 25 avril, c'était ce samedi. Voilà, j'en ai beaucoup dit, je vais laisser, c'est le but, je vais te laisser le micro, Victor, en n'oubliant pas de te remercier toi aussi de nous avoir répondu pour ta présence. Merci.
Merci à vous.
Je ne sais même pas utiliser un micro. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être ici, d'être présent. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir à chaque fois à Clermont-Ferrand. Je n'ai pas eu la chance d'être auvergnat, j'ai la chance d'être normand, mais c'est toujours avec un grand plaisir que je viens ici. Et j'ai un peu travaillé sur l'immigration portugaise en Auvergne. ils font tout bien ici au Volcan. Ils ont mis mon bouquin, c'est très très bien. Et juste à côté, ils ont mis un autre ouvrage que je vous conseille, qui a été dirigé par des collègues de l'université de Clermont-Ferrand, et qui est sur le creuset clermontois, qui est sur l'histoire de l'immigration à Clermont-Ferrand. Et ils m'ont fait confiance et ils m'ont demandé d'écrire le chapitre sur les Portugais dans le Puy de Dôme. Et alors, peut-être que vous en avez conscience, mais le Puy de Dôme est un département très singulier dans l'histoire de l'immigration portugaise en France, et notamment aux Ancises, qui a l'association portugaise la plus ancienne, et qui est toujours en existence, je ne sais pas s'il y a quelqu'un des Ancises par ici, ou de Saint-Georges-des-Monts, qui date de 1954. Et donc c'est la plus ancienne, toujours en activité, et je lui souhaite longue vie, il ne lui reste plus que 30 ans pour atteindre le centenaire, donc c'est tout à fait jouable. Voilà, et donc je voulais vous remercier pour ça, je voulais remercier beaucoup Pascal, doyen Richer, de son invitation, et de toute l'association Les œillets de la Liberté, de m'avoir invité, et je vous conseille très fortement, demain, si vous avez la possibilité, d'aller voir mon collègue, éminent, tout à fait, Yves Léonard, qui a publié un ouvrage également sur la révolution des œillets, que vous trouverez dans la très bonne librairie Les Volcans, et qui vient aussi de publier une biographie de Salazar, chez Perrin, que je vous conseille. Alors c'est un pavé, elle fait 500 et quelques pages, mais qui se lit extrêmement bien. Et pour connaître le titre, c'est un dictateur énigmatique. Une partie de l'énigme sera résolue si vous le lisez. Donc moi, de mon côté, on m'a demandé, alors je vais prendre cet ouvrage avec ce petit post-it, ça le fait rendre plus joli. Donc c'est le peuple qui commande la révolution des œillets. Alors je chante extrêmement mal, donc je ne vais pas vous infliger ça, mais pour les plus mélomanes d'entre vous, vous reconnaîtrez peut-être d'où vient ce titre. Je vais vous dire en portugais, peut-être que certains parmi vous vont comprendre. « É o povo que mais ordena », qui est une des strophes d'une chanson, « Grande de la Vila Morena », qui a été le signal qui, à minuit 20, le 25 avril 1974, c'était le deuxième signal, qui a donné... qui a dit aux différents officiers du MFA qui étaient un peu dispersés à travers le pays que la révolution était en marche. Et cette chanson, qui encore une fois, je ne vais pas vous chanter pour votre bien-être, ce que me plaît aussi beaucoup, c'est qu'elle a été enregistrée en France. On le sait assez peu, mais Zac Afonso, José Afonso, qui l'a composé, qui l'a chanté, n'était pas exilé en France, mais il était venu enregistrer en France au château d'Hérouville, dans le Vexin, pas très loin de Pontoise, parce qu'il y avait un très très beau studio d'enregistrement de Michel Magne, où des personnalités ou des groupes mineurs de l'histoire du rock, comme Pink Floyd, Elton John, ont enregistré. Mais les pauvres, maintenant, ils ont enregistré dans le studio de Glenn de la Villa Molena, donc on doit leur rappeler ça tout le temps. Et donc, en 71, il vient avec trois musiciens, dont deux sont en France, José Malo Blanco, qui est un chanteur très important au Portugal, de chansons de protestation, et Francisco Fagnaes, également un curé défroqué, qui a pris une guitare. Et donc, ils ont enregistré un album qui s'appelle Cantiques de Maio, chanson de mai. Et donc, dans cet album, il y a Grande de la Vila Morena. Donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la chanson, peut-être que si tout à l'heure vous le voulez, je pourrais vous la raconter. Donc, ça part de là. Et pourquoi j'ai pris ce titre? Pour deux raisons. Bon, d'une part, faire référence à cette chanson et à son histoire qui est liée en partie à la France et à l'exil politique en France, mais aussi parce que depuis quelques années, au Portugal, il y a beaucoup d'ouvrages sur la révolution au Portugal. C'est un champ assez florissant. Et là, dernièrement, si vous allez au Portugal et vous allez dans les librairies, vous trouverez des dizaines d'ouvrages sur la révolution. Mais ces dernières années, comme aussi il y a une grande tendance dans l'historiographie, qui a été beaucoup de s'intéresser à l'histoire politique et l'histoire vue d'en haut. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est les dirigeants, c'est les hommes politiques, c'est les généraux, c'est les cardinaux. Je ne retrouve plus de rime en haut derrière, mais vous voyez un peu l'idée. Et c'est une histoire vue d'en haut, encore une fois. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de voir aussi que cette révolution, justement, ça, alors qu'on s'intéresse au chef, à Spinola, qui était le premier président de la République, on s'intéresse à Mario Suarez, socialiste, Alvaro Cunhal, communiste. Donc une histoire vue d'en haut, on s'adresse beaucoup aussi à Kissinger, qui est décédé il y a peu, qui était secrétaire d'État américain. On a un peu oublié qu'une révolution, c'est quand le peuple intervient dans l'histoire et est disruptif, pour utiliser un terme actuel, vient casser le cours habituel des choses. Et ce peuple, il est venu casser le cours habituel des choses, alors que ce n'était pas du tout prévu. C'est-à-dire que le 25 avril 1974, qui est la date du coup d'État révolution, c'est censé être qu'un coup d'État. Et que je m'explique. Ceux qui ont organisé le coup d'État, c'est le MFA, le Mouvement des Forces Armées. Ce MFA, il était constitué de militaires professionnels, de personnes jeunes, 30, 40 ans, pas beaucoup plus âgées, qui, depuis parfois 13 ans, combattaient en Afrique, en Angola à partir de 61, en Guinée-Bissau à partir de 1963 et au Mozambique à partir de 1964. Le Portugal, dirigé par Salazar, Premier ministre depuis 1932, engage son pays dans des guerres et des guerres sans fin. Parce que Salazar le répétait, et son successeur Marcelo Caetano le répétait, il n'est pas question de décoloniser. Aucune décolonisation en vue, parce que la rhétorique était, à l'époque, c'est ce qu'on appelle le lusotropicalisme. Nous, là, c'est pas moi qui parle, hein, les lusotropicalistes, c'est pas moi du tout. Nous, nous sommes pas racistes. Depuis 5 siècles, nous sommes arrivés en Afrique les premiers. Alors, ça fait fil dans l'Empire romain et tout, mais bon, allons. À partir de 1415, on est arrivé à Ceuta. Petit à petit, on a descendu les côtes de l'Afrique. On est arrivé en 1498 en Inde. On est même arrivé au XVIe siècle, en 1536, si je me souviens bien, au Japon. On a atteint différents points. On a donné des mondes au monde, comme si les mondes n'existaient pas auparavant. Hein, mais bon, encore, c'est cette rhétorique. Et surtout, nous, comme on n'est pas racistes, quand on est arrivé, la colonisation, pour eux, ce n'est pas une colonisation, c'est une rencontre. Nous avons rencontré des peuples. Donc à l'époque, il n'y avait pas MeToo, il n'y avait pas les notions de consentement, et la rencontre, vous pouvez comprendre ce que c'est, des marins, des soldats qui arrivent et qui rencontrent. Je vous laisse imaginer, nous sommes entre adultes. Et évidemment, c'est une histoire qui faisait fi de la violence, de l'exploitation. Depuis, alors, il n'a pas fait exprès pour m'aider dans mon raisonnement, hein, mais le 23 avril, donc il y a à peine une semaine, le président de la République portugaise, qui est pourtant de droite, a dit que le Portugal devait reconnaître et réparer les crimes liés à l'expansion coloniale portugaise, à la traite négrière. Parce que pendant longtemps, les Portugais ont dit « Oui, mais non, mais nous, certes, on est les premiers, mais après, les méchants, c'est pas nous, c'est les autres, c'est les Anglais, Liverpool, c'est, et je parle pas de football, et les Français, La Rochelle, Bordeaux. Nous, certes, on a été les premiers, mais après, c'est les autres qui ont opéré la traite négrière, ce qui est une occultation totale de l'histoire et de la violence de cette histoire, et notamment le fait qu'un des principaux pays issus de l'esclavage, c'est le Brésil. C'est pas les États-Unis, c'est le Brésil. Et donc, le lusotropicalisme a servi dans les années 60 à la dictature de Salazar, puis de Caetano, de dire nous resterons en Afrique encore très longtemps. Salazar disait oui, un jour on concédera l'indépendance, dans 5 siècles. Mais d'ici là, on sera là parce qu'il n'y a là-bas que des Portugais. Et la rhétorique officielle était de dire qu'il n'y avait pas de mouvement de libération, que les peuples en Afrique ne voulaient pas être indépendants, que les mouvements dits de libération étaient des terroristes, et que c'était des gens qui venaient du Congo, de la Tanzanie, de la Guinée, et qui étaient financés par Pékin, La Havane ou Moscou. Et ces militaires, au début, et en 61, la plupart des Portugais ont soutenu la guerre, le début de la guerre. Ont soutenu parce que même en France, au début de la guerre d'Algérie, la plupart des Français ont soutenu ce qui apparaissait comme des opérations de police. Après, au fur et à mesure des années, des mois, des morts et des massacres, l'arrivée du général de Gaulle en 58, les choses ont changé. Mais au Portugal, dans les années 70, il commence à avoir au sein de l'armée professionnelle une grande lassitude. Ces guerres, elles durent depuis 10 ans, et la plupart de ces jeunes officiers du MFA, qui je le rappelle ont 30, 40 ans, se disent « mais on nous demande de faire une guerre ». Et certains d'entre eux ont déjà passé toute leur vie adulte entre les colonies et le Portugal à combattre. Ces guerres, on ne va pas les gagner. La France n'a pas gagné en Algérie. La France n'a pas gagné en Indochine. Les Anglais n'ont pas gagné en Malaisie. Et une petite puissance mondiale de l'époque, qui s'appelle les États-Unis, ne gagne pas au Vietnam, en dépit de leur armement le plus moderne du monde. Comment nous, le Portugal, le pays le plus pauvre d'Europe occidentale, où une grande partie de la population quitte le pays pour aller vivre dans des bidonvilles autour de Paris ou pour reconstruire le magnifique village de la Roche-Blanche à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand, comment nous, On va gagner une guerre sur trois fronts. Et avec notamment des mouvements de libération, en Guinée-Bissau, le PAIGC, donc le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, dirigé par Amilcar Cabral, qui obtient de l'armement de l'URSS et de la Tchécoslovaquie, et un armement qui, dans les années 70, est quasiment aussi bon, voire meilleur, que l'armement portugais. Comment nous, on va gagner ? Et donc, une partie de ces militaires commence à se dire que la dictature et les dirigeants civils de la dictature les amènent à la déroute, à la débâcle, et qu'on va les transformer en bouc émissaire d'une défaite. Et donc, autour, notamment en Guinée, où la guerre peut être perdue, en Angola, les Portugais bénéficiaient du fait qu'il y avait trois mouvements de libération qui passaient une bonne partie de leur temps à se combattre contre eux, laissant les Portugais relativement tranquilles. Au Mozambique, la situation était difficile au nord du Mozambique et petit à petit, les troupes du Frelimo descendaient, mais on peut dire qu'elle était encore sous contrôle. Notamment la capitale, Lourenço Marques, Maputo maintenant, était loin du front. Et beaucoup de colons blancs n'ont jamais vu le début de la guerre. Elle était à 2000 km au nord. Néanmoins, en Guinée-Bissau, et ce n'est pas anodin, la guerre pouvait être perdue parce que le PAIGC avait du très bon armement, était aidé par la Guinée de Sékou Touré au sud, de plus en plus par le Sénégal de Senghor au nord, et avait un très bon armement. Et le gouverneur de cette colonie, à partir de 68, s'appelle Spinola, Antonio de Spinola. Et Spinola, qui au début pensait qu'il pouvait gagner la guerre avec beaucoup de propagande, en utilisant beaucoup de moyens militaires, se rend compte qu'en fait, cette guerre, ils vont la perdre. Et aucun général n'a envie d'être le général d'une armée en déroute. Personne. Et notamment en 72, il va proposer à Caetano, le président du Conseil, de négocier. Il va dire, on peut s'entendre maintenant. On a encore le temps de s'entendre. Avant la défaite, il faut qu'on s'entende. Et il faut qu'on s'entende via Senghor, qui est, comme vous le savez, un très bon poète, mais qui n'est pas du tout communiste, qui n'est pas du tout un radical. Et Senghor est plutôt modéré et est prêt à jouer le rôle d'intermédiaire entre le Portugal et le PAIGC d'Amílcar Cabral. Et Amílcar Cabral ne dit pas non. Sauf que Caetano, quand Spinola lui dit, et Spinola est loin d'être à gauche, hein, vraiment pas, quand il lui dit bah, il faudrait négocier, ça pourrait être une bonne occasion de négocier, Caetano dit il n'est en aucun cas question de négocier en Guinée, qui ne compte quasiment rien pour l'économie portugaise. C'est pas important hein, d'un point de vue économique. Il n'est pas question de négocier, parce que si on négocie en Guinée, il faudra ensuite négocier en Angola et au Mozambique, donc une sorte d'effet domino qu'il ne veut pas. Et d'autre part, ce qu'il dit, et ce qui va être le début de sa fin, quelque part, il dit les armées sont faites pour faire la guerre, ils peuvent les gagner, ils peuvent les perdre. Et donc, grosso modo, ce qu'il dit, vous allez perdre la guerre, mais ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et c'est dans cette ambiance-là qu'en 73, le ministre de la Défense nationale prend une décision, il signe un décret-loi qui va être à l'origine du mouvement des capitaines. Le grand problème de l'armée portugaise n'était pas vraiment d'avoir des soldats de base. Pourquoi ? Parce que, d'une part, certes, au début des années 70, 20% des jeunes portugais fuyaient le Portugal pour ne pas faire leur service militaire. Ce qui est énorme, 20% d'une classe d'âge qui fuit, et beaucoup viennent en France, viennent travailler en France, ils sont insoumis, ils sont réfractaires, ils sont parfois déserteurs. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 80% des jeunes qui vont. Et surtout, ce n'est pas un problème parce que, pour des raisons à la fois d'économie et de propagande, le Portugal va commencer à recruter de plus en plus des Africains, notamment au Mozambique. Ce qui permet de dire, regardez, une partie de nos régiments sont constitués d'Africains, ça veut dire qu'ils veulent qu'on reste dans les colonies. Ça coûte moins cher, c'est des gens qui sont plus adaptés au territoire, plus habitués, etc. Donc c'est pas un problème, les soldats. Ce qui va être un problème, par contre, ce sont les sous-officiers ou les jeunes officiers. Au cours des années 60, vous vous en doutez pourquoi, de moins en moins de jeunes Portugais vont à l'académie militaire. De moins en moins de Portugais veulent devenir militaires professionnels. C'est un avenir brillant qui vous attend. 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, à combattre au fin fond de la Guinée, à combattre au fond de la Mozambique, pour une guerre qui apparaît de plus en plus impopulaire, archaïque et injuste. Et donc, comment l'armée portugaise règle ce problème ? Très classiquement, on prend des étudiants, on leur donne une formation rapide, et ils deviennent sous-officiers, sous-officiers de réserve. Ce qui va déjà avoir pour conséquence de l'université portugaise, à partir de 1962, va connaître un mouvement de politisation à gauche du Parti communiste. Il y a des groupes maoïstes qui vont se développer. Une partie de la jeunesse masculine portugaise va contester la dictature, va contester les guerres coloniales. Et certains, donc des jeunes sous-officiers, quand ils vont aller à l'armée, ils écoutent du Zé Afonso, ils sont de gauche, et notamment ils vont transmettre aux officiers professionnels, mais aussi aux simples soldats, des idées très 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 lointaines de celles de la dictature. Et néanmoins, ces officiers, ces sous-officiers étudiants, à la fin du service militaire, ils rentrent à la vie civile. Donc ce décret-loi que je vous évoquais, qu'est-ce que c'est ? C'est le ministre de la Défense nationale qui dit, qui concocte un décret-loi, qui essaye d'inciter les sous-officiers dits miliciens ou de réserve à rester dans l'armée, parce qu'il manque cruellement des officiers. Le problème de l'armée portugaise, c'est des officiers, et des jeunes officiers, pour quadriller le territoire. Et donc il crée, il écrit ce décret, qui est très mal rédigé, qui fait que les jeunes étudiants ont une progression dans la carrière militaire plus rapide que les officiers professionnels. Donc vous avez des jeunes militaires, des jeunes capitaines, qui voient des fréluqués, ce qu'ils appellent des officiers éprouvettes, leur passer devant dans la carrière militaire. Les militaires, ça a beaucoup de qualité, mais notamment le goût de la discipline et de la hiérarchie et de la progression. Et c'est de ce décret, en juillet 73, que naît le mouvement des capitaines, et qui, comme vous le voyez, a des bases corporatistes. C'est des officiers de carrière qui, grosso modo, disent « on est en train de nous prendre dans nos poches, on est en train déjà de nous boucher notre avenir », parce que s'il y a de plus en plus de capitaines issus des miliciens, notre carrière va être stoppée. Et donc ça commence par ça. C'est purement corporatiste. Mais très vite, les premières réunions qui sont clandestines, qui sont à la fois clandestines, mais à la fois ils signent des pétitions qu'ils envoient au Premier ministre. Donc à la fois, il y a des réunions clandestines, mais le ministre, le Premier ministre savent qu'il y a une contestation. Et très très vite, ils vont comprendre cette contestation. Et très très vite, ils vont prendre des mesures. Ce décret va être suspendu. Il va être réécrit, mal réécrit, donc ça va encore plus augmenter la contestation. Puis après, ils vont le suspendre. Ensuite, ils vont augmenter une augmentation exponentielle des salaires des capitaines. Ils vont évidemment démettre le ministre de la Défense nationale et le remplacer par un autre. Mais tout ça va être trop tard. Pourquoi ? Parce que au sein de ce mouvement des capitaines, qui commence à se réunir à partir de septembre, très vite, la conclusion de certains d'entre eux va être de dire « mais le problème, ce n'est pas nos carrières. Le problème, ce n'est pas nos salaires. Le problème, c'est cette guerre. » Cette guerre, c'est une guerre sans fin. C'est une guerre anachronique. C'est une guerre injuste. Beaucoup de ces jeunes gens, quand ils sont partis en Afrique, et c'est le cas d'un des plus connus, qui est Sergueï Lumbaye, c'est celui que vous voyez dans Capitaine d'Avril, celui que vous voyez en photo, celui qui a eu, entre guillemets, le grand honneur d'être celui qui encercle le dictateur le 25 avril après-midi. Des gens comme lui, au début, ils y croient à la propagande. Mais très vite, ils vont aller en Afrique, ils vont voir qu'en fait, au-delà de tous les discours que je vous ai évoqués, l'usotropicalisme, nous, on a rencontré les peuples, on ne discrimine pas, on n'est pas raciste. Ils ont vu quoi ? Du racisme, de l'exploitation, notamment dans les champs de coton, dans les champs de café. Ils ont vu que les colons vivaient extrêmement bien, bien mieux qu'eux, et qu'ils ils étaient extrêmement durs avec les populations colonisées. Ils ont vu des massacres au début de la guerre. Vous avez l'armée qui coupe des têtes, qui les met sur des pics. Ils ont vu des horreurs, et certains ont pratiqué des horreurs. Et donc, pour certains d'entre eux, cette guerre, il faut l'arrêter. Et pour arrêter cette guerre, on l'a bien compris, la dictature ne va pas le faire. Spinola a proposé. La dictature ne le veut pas. Et donc, très vite, ils vont se dire, la seule solution de mettre fin à cette guerre, c'est de mettre fin au régime. Et donc, c'est comme ça qu'à partir du printemps 1974, une partie des capitaines, qui se réunissent à plusieurs reprises clandestinement, vont organiser le 25 avril 1974. Et le chef d'orchestre de tout cela... Et un officier qui va avoir une réputation importante tout à l'heure, on l'a déjà dit, Otelo Salavat Carvalho, dit Otelo, c'est plus simple, parce que Salavat Carvalho, c'est un peu non. Donc, quand je dirais Otelo, c'est lui. Et c'est lui qui, en un mois, à peine, de façon très artisanale, très rudimentaire, à l'époque, on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'ordinateur, va faire un plan d'opération qui va assez bien fonctionner le 25 avril. Et là où je voulais en venir, et qui est donc le peuple, c'est que ces militaires, et Otelo, quand il organise son coup d'État, c'est un coup d'État purement et simplement militaire. Il n'y a que des militaires qui sont impliqués. Il ne fait pas appel à l'opposition. Le principal parti d'opposition, c'est le Parti communiste. Il n'est pas du tout impliqué. Aucun civil est impliqué, parce que les militaires, ils se disent « Oula, il y a déjà eu plein de coups d'État avant, c'est pas le premier coup d'État. » Il y Il y en a eu à partir de 1927, il y a eu très régulièrement des tentatives de coup d'État militaire, civil, civil et militaire contre la dictature, qui ont tous échoué. Là, Othello, il y a notamment un premier coup d'État le 16 mars 1974 qui échoue. Et à la limite, tant mieux qu'il échoue, parce que ça va être une sorte de répétition générale. Et Othello, qui a participé à ce premier coup d'État et qui voit son échec, va se dire « Ok, j'ai compris les erreurs, maintenant on ne va pas les répéter deux fois ». Et donc ce coup d'État militaire qui est pensé par Othello, il y a deux choses auxquelles il n'a pas pensé. Et une des choses auxquelles il n'a pas pensé, c'est quand le MFA prend le contrôle de la radio et la télévision, à 4h26 du matin, pour ceux qui sont déjà réveillés, il y a un premier communiqué qui dit il y a un mouvement militaire en cours. Ils ne disent pas tout de suite pourquoi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, ils le répètent, et peut-être des gens parmi vous qui l'ont entendu pour la première fois, notamment j'ai écouté l'INA, donc l'Institut National Audiovisuel, où vous pouvez regarder les émissions de radio ou de télévision il y a 50 ans. Et donc, j'ai retrouvé notamment à 7h du matin sur France Inter, Philippe Gildas, que les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas, mais que les plus vieux d'entre nous connaissent, Philippe Gildas, qui était présentateur de France Inter, qui à 7h du matin parle d'un soulèvement militaire au Portugal. Et à l'époque, quand on dit soulèvement militaire au Portugal, quand on dit soulèvement militaire, on ne pense pas à gauche, on pense à extrême droite. Et on est quelques mois après le Chili, où tout le monde a encore dans la rétine les avions qui survolent la Moneda à Santiago et qui pilonnent le palais présidentiel où Allende va se suicider. Donc quand on parle de soulèvement militaire le matin, on se dit pas, on pense pas à Othello, l'extrême gauche, etc. On se dit, ah, n'est-ce pas l'aile la plus dure du régime, l'extrême droite, qui est encore plus à droite que Caetano, qui a toujours en tête que depuis que Salazar a quitté le pouvoir en 68, que Caetano est un traître en puissance, est-ce que c'est pas l'extrême droite qui va tenter un coup d'État? Donc tous ceux qui l'entendent le matin se disent, oula, c'est l'extrême droite qui va durcir le régime. Et le MFA, quand ils font le premier communiqué, ils ne disent pas. C'est qu'en matinée qu'ils disent, ce coup d'État est destiné à mettre fin à la dictature et à rendre la liberté au peuple portugais. Mais c'est que dans la matinée. Mais dès le premier communiqué, à 86, qu'est-ce qu'ils disent? Soulèvement, opération militaire, et surtout, restez chez vous. Ce n'était pas le Covid à l'époque? Restez chez vous. Pourquoi? Parce que c'est une révolution. Et ce que pensait Othello, Othello savait qu'il avait très bien fait son plan, il savait sur qui il pouvait compter, sur qui il ne pouvait pas compter, ceux qui allaient rester neutres, mais il s'attendait à ce qu'il y ait des affrontements. Il s'attendait à ce qu'il y ait de la résistance. Personne ne s'attendait à ce qui arrivait, que la dictature tombe comme un château de cartes. Ça, personne ne s'y attendait vraiment. Quand 18 heures, une dictature de 48 ans tombe. Donc, on craignait qu'il y ait des échanges de tirs, et donc c'est pour ça qu'on dit à la population, restez chez vous. Et autre consigne qui est donnée, et qui montre bien qu'ils ne sont pas sortis encore avec des œillets à soie boutonnière, ils disent et demandent aux médecins de se rendre de toute urgence dans les hôpitaux. Donc quand vous dites aux médecins de vous rendre dans toutes les urgences dans les hôpitaux, c'est encore pas le Covid, c'est encore que vous attendez à ce qu'il y ait des affrontements. Et ce qui va se passer le 25 avril, c'est deux choses. C'est que d'une part, ce peuple, en fait, sort dans la rue. Et vous connaissez toutes ces images, probablement, du lac do Calmo, donc devant une très belle place à Lisbonne, où vous avez une église détruite, et vous avez le siège de la gendarmerie nationale, qui est noir de monde dans l'après-midi. Mais vous avez déjà des gens dans les rues, et qui applaudissent les chars qui circulent, que on est jeudi matin. Les gens n'ont pas tous écouté la radio, les gens vont au travail et on est en plein cœur de Lisbonne. Et donc en fait, il y a plein de photos où vous voyez des tanks au milieu de civils. Et même, il y a une très célèbre photo de Sergei Lumaï qui est sur un char avec un porte-voix où il dit, bon, ce n'est pas les paroles, hein, mais laissez-nous un peu tranquille, on fait une révolution là. Donc reculez. Et le problème, ça va être que on dit souvent que c'est une révolution pacifique, etc. Et le livre commence sur ça, qui pour moi est une interrogation d'un double défaut, d'un historien, premier défaut, et d'un français, deuxième défaut. Pourquoi? Si vous allez à Lisbonne, la prochaine fois que vous allez à Lisbonne, vous verrez le siège de la gendarmerie nationale, vous verrez une très très belle façade immaculée. Comme la plupart des façades depuis 10 ans, après une révolution qui s'appelle Airbnb et le tourisme de masse, Lisbonne a complètement changé, et d'une ville qui tombait en ruine, maintenant est une ville qui est refaite, parfois un peu en carton-pâte, mais bon, elle est refaite. Et toutes les façades sont immaculées. Et moi, ce qui m'a étonné en tant qu'historien, et en tant qu'historien qui a vécu notamment à Paris, mais je pense qu'à Clermont, vous allez peut-être me donner des exemples plus tard. À Paris, si vous êtes attentif, vous voyez plein d'impacts de balles un peu partout à Paris, à la préfecture de police, où est-ce que j'étais dernièrement, où il y avait des impacts à l'hôtel de ville. Il y a des impacts de balles partout. Parce que, août 44, la libération, même des impacts de la Première Guerre mondiale, etc. Et dernièrement, j'y suis allé, et j'ai dû remarquer, mais je n'avais pas fait attention, le 25 avril, Maille, dans l'après-midi, fait tirer à plusieurs reprises sur la façade, en haut, pour blesser personne, mais soit qu'ils disent aux gens quand même, poussez-vous, parce qu'on va tirer. Donc ils ne veulent pas qu'une balle perdue tue quelqu'un. Donc ils tirent, parce qu'en fait, un des problèmes, et si ça dure un peu plus longtemps, c'est super rapide, mais ça dure un peu plus longtemps, pas que prévu, mais plus longtemps, c'est que Maille, le chef des troupes, il est capitaine. C'est-à-dire que dans l'armée, il n'est pas grand-chose. Il est tout en bas. Et que Caetano et ceux qui sont réfugiés avec lui, c'est inconcevable pour eux de donner le pouvoir de se rendre à un capitaine. Maille a 29 ans et 11 mois. C'est comme si moi, maintenant, je prenais le micro et je disais « Je suis le maire de Clermont-Ferrand. Merci Olivier Bianchi pour votre excellent travail, ou votre travail. Et je ne connais pas. Et c'est moi le maire maintenant. Je fais cet acte. » Non, ça... Et donc, pour montrer qu'ils étaient décidés et que s'il le fallait, ils tireraient avec un tank sur l'immeuble, ils ont tiré à deux reprises. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est que d'une part, ces balles ont été effacées. Elles ont... Maintenant, la façade est immaculée. Et ce qui est fou, c'est que ça n'a causé aucun débat. Alors que si maintenant, et ce n'est pas une incitation au crime... Vous allez à Lisbonne, vous faites une lacrymo, vous faites un tag sur un monument avec Vasco de Gama ou une église ou quelconque monument historique lié aux grandes découvertes. Alors là, vous avez le droit à deux semaines de polémique sur les wokistes qui veulent effacer l'histoire du Portugal. Mais retirer ces impacts de balles, qui sont pourtant les impacts de balles les plus importants de l'histoire du Portugal, probablement, ça ne posait aucun problème. La ville est plus belle, la ville est plus jolie, etc. Mais donc, ce peuple, il intervient dans la rue et il va transformer un coup d'État militaire en révolution. Parce qu'il sort dans la rue le 25 avril et ça va avoir une importance extrêmement importante. C'est-à-dire que les insurgés, ça va les galvaniser. Ils vont sentir que le peuple les soutient. Les jeunes soldats, ceux qui font la révolution, ils ont 19, 20, 21 ans. C'est des jeunes soldats qui sont en train de faire leur service militaire. Et à un moment, on les a réveillés au milieu de la nuit, on leur a dit « Est-ce que ça vous dit de faire la révolution ?» Et ils ont dit tout « Oui, bien sûr, on va faire la révolution avec vous. » Mais c'est des enfants. Ils ont 19, 20, 21 ans, je vous dis, le capitaine Maille a 29 ans. Et d'autre part, les troupes qui étaient censées protéger le régime, et à plusieurs reprises, le gouvernement, il ne va pas tomber sans résister du tout, quand même. Il va envoyer des troupes, et à chaque fois, les troupes qu'on envoie, et si vous avez vu Capitaine d'Avril, vous comprendrez, à plusieurs reprises, des troupes sont envoyées pour arrêter les insurgés. Et les jeunes soldats vont dire soit on s'en va, on repart, soit change de camp. Et notamment à une reprise où ça aurait pu extrêmement mal tourner, dans la matinée, un des brigadiers liés au régime demande à ses hommes de tirer sur Maille. Et ses hommes refusent tous de tirer. Ce qui, là, paraît évident. Mais là, je vous parle de jeunes soldats qui étaient dans l'armée, donc qui ont accepté d'aller dans l'armée, qui auraient pu... désertés, qui auraient pu être insoumis, qui sont allés dans l'armée. Et à l'armée, qu'est-ce qu'on vous apprend à faire ? À obéir aux ordres. Et c'est des gens qui sont nés sous la dictature. Et donc cette désobéissance, maintenant, elle nous paraît peut-être normale, mais elle n'était pas du tout. À cette époque-là, refuser d'obéir à cet ordre, de tirer sur un rebelle, c'était sa carrière était terminée à ce jeune homme, à ces jeunes hommes. Alors maintenant, ce n'est même pas des héros, parce qu'il y a un livre qui les a retrouvés, ils ont témoigné il y a peu de temps. Mais pendant longtemps, on n'a pas su qui c'était ces gens-là, qui avaient refusé de tirer sur les insurgés. Et donc, ces soldats qui étaient envoyés pour arrêter, ils ont vu aussi la foule. Ils ont vu que la foule soutenait les rebelles. Et évidemment, ça ne leur donnait pas vraiment une motivation supplémentaire. Et pourquoi ce peuple ? Donc vous voyez, le 25 avril, d'un coup d'État, on passe à une révolution. Ce peuple aide, soutient la révolution, et surtout ce peuple, il ne va pas rentrer chez lui. D'une part, il est sorti de chez lui alors qu'on lui disait de rester, et ensuite, une partie de ce peuple va rester en révolution pendant quasiment 19 mois. Et en fait, très souvent, le livre, alors c'est pas qui commence, parce que j'explique le début, mais le livre parle de ce qu'on oublie, si on regarde les manuels de première en France, que j'ai un peu regardé ce que c'est au programme maintenant, Les programmes de première, c'est en deux pages, hein, c'est dur hein, d'expliquer la révolution, donc les concepteurs, je les plains, mais c'est, alors il y avait une dictature, il y avait des guerres coloniales, il y a eu le 25 avril, et le Portugal est rentré dans l'Europe. C'est ça l'Emmanuel. Et comme si entre 74 et 86, c'était pas passé grand-chose. Or, entre 74 et 76, le Portugal est en révolution. C'est-à-dire qu'une révolution, c'est la dernière révolution où en Europe occidentale, le capitalisme a été remis en cause. C'est-à-dire que dès les heures qui ont suivi le 25 avril, et relativement spontanément, parce que la plupart des partis d'opposition étaient dans la clandestinité, étaient assez réduits, parce que notamment le Parti communiste qui datait de 1921, ça faisait 48 ans qu'ils étaient pourchassés, persécutés. Après la Révolution, le comité central du Parti communiste portugais avait fait des additions et avait additionné le nombre d'années passées en prison par les membres du comité central. Et de cette addition était sorti 306 ans, en cumulé. Álvaro Cunhal, secrétaire général du Parti communiste, avait passé quasiment 15 ans en prison. Certains avaient passé 20 ans en prison. Et donc il y avait toute cette opposition qui, juste après le 25 avril, d'ailleurs, ce n'est pas trop ce qui se passe. Ils se disent, mais c'est vraiment fini la dictature ? Évidemment, on peut pas, personne n'y croit vraiment. Mais donc, dès le 26-27 avril, spontanément, vous avez des habitants des bidonvilles qui vont occuper des logements vides. Très très vite, il y a un mouvement de grève, surtout à partir du 2 mai, un mouvement de grève dans tout le pays. Surtout autour de Lisbonne, Setúbal, Porto, Braga, là où l'industrie s'est développée dans les dernières années. Le peuple, spontanément, c'est pas... Alors, Spinola dira ensuite que c'est le Parti communiste, que c'est... C'est relativement spontanément. Les gens ont vécu pendant 40 ans sans droit de grève, sans droit syndicaux, sans droit d'ouvrir leur bouche librement. Dès qu'ils sentent qu'ils ont la possibilité de demander des droits, ils le font. Et donc le Portugal, pendant 19 mois, va connaître des comités de résidents qui occupent des logements vides pour reloger ceux qui vivent dans les bidonvilles. Et autour de Lisbonne, autour de Porto, autour aussi de Braga, il y avait des bidonvilles énormes. Et qui ont perduré jusqu'aux années 90, en fait. Jusqu'au grand nettoyage qui était lié au... Bon, il y en a encore, en l'occurrence, mais moins. Mais jusqu'au grand nettoyage de l'Expo 98, où il a fallu montrer une ville moderne à tous les touristes. Donc, comité de résidents qui essayent de diriger les quartiers. Et notamment, vous avez beaucoup de femmes qui participent à des occupations de logements vides et pour créer des crèches. Vous avez des occupations des usines. Vous avez des mouvements d'autogestion. Pourquoi ? Parce qu'une partie du patronat, en fait, est partie après le 25 avril. Certains entrepreneurs français, suédois, en fait, ils étaient bien en Portugal avant, parce qu'il n'y avait pas de droit de grève, il n'y avait pas de syndicat. Parce que si un ouvrier ou une ouvrière parlait un peu trop, elle était arrêtée par la police politique. Donc, une partie du patronat a voulu quitter le Portugal. Et de nombreuses ouvriers ou ouvrières ont autogéré les entreprises. Il y avait l'IP en France, à la même époque, et vous avez aussi ce qu'on appelle le contrôle ouvrier. À partir de certains moments, surtout en 75, une partie des ouvriers disent « Ok, le patron reste là, ou la maîtrise reste là, mais nous, on veut avoir accès aux comptes. On veut décider aussi les salaires, etc. etc. » Et dans le sud du pays, il y a aussi un énorme mouvement, ce qu'on appelle au Portugal la réforme agraire. Le Portugal est divisé en deux. Ceux qui sont d'origine portugaise ici, fort probablement, il y aura toujours une exception, mais viennent du nord du pays, au nord du Tage. Minho, ok. Je pense que je peux parier sur Braga, Guimarães, Viana do Castelo et Balcerdes. Je ne me trompe pas trop ?
Non.
Je ne me trompe pas trop, merci. Et donc, vous connaissez très bien ce Minho Verde, c'est une chanson de Zeca Afonso également. C'est des régions de petite exploitation familiale. Les gens ont des toutes petites terres où ils vivent misérablement, mais ils sont propriétaires de leurs terres. De petits lopins de terre qui travaillent jusqu'à la moelle, avec la vigne qui grimpe, avec une utilisation extrêmement intense de la terre. Au sud du pays, au sud du Tage, je ne pense pas qu'il y en ait parmi nous, c'est plus rare, c'est la Lentejo et le Ribatejo. C'est des grandes exploitations où une personne a des hectares et des hectares de terre, et où sur ces hectares et ces hectares de terre, il y a des prolétaires agricoles. Des gens qui n'ont que leurs bras pour survivre et leurs enfants, et qui vivent extrêmement mal. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a peu de... Les plus pauvres au Portugal, c'était pas les gens de Minho. Je vous dis pas que les gens de Minho étaient riches, parce que je suis en train de dire. Mais les plus pauvres des pauvres, c'était les gens d'Alentejo, qui avaient qu'un salaire et qui travaillaient même pas toute l'année. Et eux, ils étaient tellement misérables qu'ils ne pouvaient pas venir en France. Parce que venir en France, ça impliquait payer un passeur, prendre des risques. Et pour ça, il fallait un peu d'argent. Argent que les gens du Sud n'avaient pas. Quand ils émigraient, ils allaient à Lisbonne, dans la grande ceinture industrielle. Mais donc, dans le sud du pays, il y a un énorme mouvement à partir de fin 1974 d'occupation des terres. On occupe les terres et, avec le slogan « La terre à qui la travaille », les prolétaires agricoles occupent et créent des coopératives ou des unités de production. Et pendant quelques mois, le sud du pays, la plupart des propriétaires soit sont partis, soit ont perdu leur propriété. Et donc, comme vous voyez, c'est une véritable révolution qui a lieu au Portugal. Et c'est une révolution qui fascine. Alors peut-être que parmi vous, ça a été le cas, mais il y a beaucoup de personnes de gauche ou d'extrême gauche qui sont là au Portugal en 74-75. Parmi eux, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Cohn-Bendit, François Mitterrand, Georges Marchais. Et je pourrais continuer la liste parce que... Comment ? Charlotte Delbo, exactement, tu pourras parler de la pièce. Donc il y a beaucoup de Français qui vont voir cette révolution. C'est la dernière fois. La dernière fois, ça, on ne le sait pas, en fait. Portugal, c'est la dernière fois. Mais c'est là, il y a une révolution. On est 6 ans après mai 68. Pour certains, enfin, les promesses de mai 68 sont en train de s'appliquer. Et donc, il y a, bon, les Français, hein, on projette beaucoup sur les autres pays ce qui se passe chez nous. Et donc, pour beaucoup, c'est 36, 68. Alors, parfois, pour les plus à gauche, c'est 1917, etc. On projette sur le Portugal. Et notamment pour l'extrême gauche, le Portugal, c'est le laboratoire de la révolution. Beaucoup de militants d'extrême gauche vont là-bas et se disent, voilà, c'est le laboratoire du Portugal. Ensuite, la révolution va s'étendre à l'Espagne. Franco est mourant. Il meurt le 20 novembre 1975. Ensuite, il y a la Grèce. La Grèce qui se débarrasse des colonels en octobre. Donc, en juillet, pardon. Vous avez cette idée que le Portugal est le début de l'Europe du Sud. Si je reprends la théorie à l'époque, c'est là où le capitalisme est plus faible. Du point faible du capitalisme, la crise du capitalisme va s'étendre vers le nord. Bon, comme vous le savez, je crois que ce n'est pas ce qui est arrivé. Je ne crois pas. Donc, ce qui, dans cet ouvrage, ce que j'essaie d'expliquer, c'est évidemment, j'explique les grandes oppositions qu'il y a eu entre le Parti communiste et le Parti socialiste, entre Spinola, qui devient président, et qui, en fait, se rêve en De Gaulle portugais, récupère le pouvoir le 25 avril et fait une sorte de coup d'État dans le coup d'État. C'est-à-dire que Spinola, il va dire, c'est pas lui qui organise le 25 avril, mais c'est lui qui tire les marrons du feu, et à partir du 25 avril au soir, il se dit, bon, c'est bon, maintenant c'est moi le chef. Et Spinola, notamment, il y a tout de suite un désaccord qui va être fort, c'est que Spinola, il veut pas de la fin des colonies. Les MFA veulent la fin de la colonisation. Lui, Spinola, je vous dis encore, il est comme le général de Gaulle, il dit, ah non, mais on va faire une communauté. Une communauté, certes, les pays africains auront une autonomie, on pourra même dire que c'est des États indépendants, mais grosso modo, ils seront attachés à la métropole. Ce qui est étonnant, c'est que Spinola, il n'a pas compris que la communauté créée par De Gaulle en 58, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Il y a eu la France-Afrique derrière, la France n'a pas tout perdu, loin de là. Mais la communauté en tant que telle n'a pas perduré. Et donc, un des premiers conflits, ça va être ce conflit entre Spinola, qui fait un truc fou, c'est le soir du 25 avril, dans la nuit du 25 avril même, au milieu de la nuit, va à la télévision et dit « Ce coup d'État a été fait pour continuer le Portugal pluricontinental et pluriracial. » Il reprend mot à mot le discours de la dictature. En fait, il dit « Bon, on a fait tout ça pour que rien ne change quand même. » Et très vite, il va y avoir un conflit entre lui et le MFA. C'est le MFA qui va gagner, donc Spinola va partir, et une partie de la population. C'est-à-dire que le rêve de Spinola, c'était de dire « Ok, on va organiser des élections dans les colonies, on va avoir des États qui vont décider de rester attachés au Portugal, et on va pouvoir donc créer cette communauté. » Ce qu'il n'avait pas du tout anticipé, c'est que les mouvements de libération, vous pensez qu'ils ont attendu que les Portugais fassent la révolution et qu'on leur décide s'ils peuvent voter? Non, ils ont continué la guerre. Et est-ce que vous pensez que les soldats en Angola, en Mozambique, en Guinée, ils ont voulu être le dernier soldat qui meurt pour une guerre qui était finie? Non. Et donc très vite, l'armée portugaise est rentrée quasiment en déroute. Les combattants, notamment en Guinée, ont quasiment fait grève. Ils ont dit non, nous on arrête les combats. Donc Spinola, son rêve de créer une communauté était en fait impossible. Et donc, je ne vais peut-être pas parler plus longtemps pour qu'on puisse poser des questions, mais dans cet ouvrage, à la fois, ce que j'ai voulu faire, c'est de restituer le rôle du peuple, mais aussi de restituer ce cours. Alors là, je simplifie un peu le propos, mais c'était une révolution qui a été intense. À l'époque, alors je n'ai pas pu le mettre, l'éditeur ne voulait pas mettre d'image, mais il y a une image que j'aime beaucoup. Et si un jour, vous, maintenant avec les téléphones, vous pouvez le faire, mais vous tapez sur Google ou Ecosia ou ce que vous voulez, João Abelmanta, João comme vous savez tous l'écrire ici, Abelmanta, M-A-N-T-A, Portugal, un problème difficile. C'est une caricature de 75 où vous avez un tableau à la craie, c'est une cour d'école, une classe d'école, pardon, avec juste à la craie le Portugal, et vous avez rien que moins que Marx, Hegel, Jean-Paul Sartre, Gramsci, Salazar, bon, je vous ai Mao, qui regarde le Portugal, il n'y a qu'une seule femme, Rosa Luxembourg, on n'est pas encore à une époque de la parité, et qui regarde le Portugal et essaie de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Parce qu'en 75, on se demandait, est-ce que le Portugal va devenir une démocratie populaire? Une nouvelle Tchécoslovaquie? Alors certains le veulent, beaucoup le craignent. Est-ce que ça va devenir un Cuba? Une sorte de Cuba en Europe? Est-ce que ça va devenir, là, la référence est plus dure, je pourrais vous l'expliquer, le Pérou? Parce qu'au Pérou, depuis 68, il y avait des militaires de gauche au pouvoir. Ou est-ce que ça va devenir, parce que est devenu le Portugal, une démocratie libérale, pluraliste? Mais en 75, les jeux n'étaient pas du tout faits, en fait. Et ce n'est qu'à partir de 76, à partir des élections législatives de 76, que le Portugal, bon, le Portugal a une constitution qui est, à l'époque, extrêmement à gauche. L'article 2 de la constitution de 76 dit que le Portugal est un pays en transition vers le socialisme. Et que l'objectif des institutions est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Que toutes les nationalisations de... Là, il y a une vague de nationalisation, une partie de l'économie nationalisée, que les nationalisations sont gravées dans le marbre. Que la réforme agraire, donc l'occupation des terres, est gravée dans le marbre. Vous l'aurez compris que ça n'a pas vraiment été appliqué. La Constitution a été amendée à plusieurs reprises, et ça a été retiré. Mais que donc, à partir de 1976, après ces utopies, ces rêves, ces menaces de guerre civile également, il ne faut pas l'oublier. Je vois ici devant moi Aurelio, qui lui aussi a une partie de sa famille originaire de Ponte de Lima. Mes parents sont aussi originaires de Ponte de Lima, donc j'ai dû faire de l'histoire locale, mais qui s'inscrit dans une histoire plus générale. Le 18 août 1975, à Ponte de Lima, il y a le marché, tous les lundis de toutes les deux semaines. Si vous n'êtes jamais allé, je vous le conseille. Aurelio, tu es d'accord? Merci. Et le jour de marché, une partie de la population, en fin d'après-midi, s'est attaquée au siège du Parti communiste. Et il y a eu un militant qui a été tué par l'armée quand elle est intervenue. Et donc, c'était en 1975 aussi une époque où on craignait que le Portugal nous tombe dans la guerre civile, ce qui, fort heureusement, n'est pas arrivé. Et donc, l'ouvrage se termine sur cette démocratisation du pays. Et même se termine... Alors, maintenant, quand je regarde les ouvrages depuis la sortie en novembre, il y a eu deux réimpressions. Donc, et j'ai embêté les éditeurs qui me détestent. Parce que je leur disais, je l'ai écrit en novembre, je l'ai écrit en quoi? En juillet-août 2023. Et la dernière sous-partie s'appelait « Un 50e anniversaire sous la menace de l'extrême droite ». J'ai écrit ça en juillet-août 2023 et je vous promets, je n'ai aucun talent de devin. Les historiens ne voient pas l'avenir, ils essayent de connaître le futur pour mieux comprendre le présent. Mais je me disais, bon, il va y avoir les commémorations... Il y a un parti d'extrême droite qui s'appelle Cheg, qui aux élections 2022 avait eu 12 députés. Et évidemment, comme l'extrême droite a beaucoup de discours sur l'histoire et sur le sens de l'histoire. Et je me suis dit, bon, le 25 avril, si vous voulez, on pourra revenir. La date même du 25 avril, je ne vous dis pas ce qui se passe après. Mais le 25 avril est assez consensuel au Portugal. De gauche et de droite, on est tous pour le 25 avril, sauf l'extrême droite. Après, je ne vous dis pas que la droite adore... les nationalisations, la réforme agraire, les occupations de logements vides. Ça, c'est un héritage dont ils sont moins contents, la décolonisation, telle qu'elle s'est produite. Mais le 25 avril, la fin de la dictature, bon, grosso modo, à droite, c'est relativement consensuel. Et évidemment, vous savez comment fonctionne l'extrême droite, et vous savez comment fonctionnent les médias. Il suffit d'avoir une voix dissonante pour tout de suite que les micros viennent vers vous. Et évidemment, ce parti d'extrême droite allait sûrement jouer sur cela. Sauf que ce que je n'avais pas prévu, et je ne suis pas responsable, ne venez pas, il y a un député ici présent, je ne suis pas responsable, en novembre 2023, deux jours avant la sortie du livre, donc l'éditeur m'a envoyé un email courroucé, le Premier ministre portugais a démissionné, António Costa, pour des soupçons d'affaires de corruption qui depuis se sont assez largement dissipés. Bon, je ne suis pas juge non plus, mais a priori... Et il y a eu des élections le 10 mars 2024 Et lors de ces élections de 10 mars 2024, un des principaux résultats qui a choqué beaucoup de Portugais, l'extrême droite, qui, je vous le rappelle, était inexistante au Parlement jusqu'en 2019. Jusqu'en 2019, le Portugal était un pays, une exception en Europe. L'extrême droite, aux élections, faisait moins de 1%. En 2019, ils ont eu un député, avec 1,quelques%. En 2022, ils ont eu 12 députés. Donc déjà, on disait, oh, c'est beaucoup. Et en 2024, ils ont atteint 18% et 50 députés. Un député par année de démocratie. Et donc, évidemment, dans la troisième réimpression, j'ai rajouté quelques éléments sur ça, et je terminerai sur ça. Le soir du 10 mars 2024, le leader de l'extrême droite, André Ventoul, a fait un discours quasiment de victoire, parce que pour lui, atteindre 50 députés est une victoire. Et à la fin de son discours, il a notamment dit que ce score électoral était une, je cite, « remise en cause de l'histoire et du 25 avril ». Et que depuis le 25 avril, le peuple avait perdu une partie de sa liberté, ce qui est l'inverse, bien évidemment, avait perdu une partie de sa liberté et que c'était une remise en cause de tout cela. Et donc, j'espère qu'il y aura une quatrième réédition, mais ça montre bien que les révolutions, comme la révolution de 1789, sont toujours extrêmement vivantes dans nos sociétés, notamment au Portugal. Ça s'est vu avec les commémorations. Il y a eu des centaines de milliers de Portugais qui ont défilé à Lisbonne et dans tout le pays il y a quelques jours, et que donc c'est toujours des moments intenses qui ont changé le cours de l'histoire, mais qui sont encore de nos jours intensément vécus. Et je vais peut-être me taire pour un moment, et si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Merci beaucoup.
Oui, donc on attend les questions maintenant. Enfin, Victor,
monsieur,
voilà.
Alors,
monsieur, je vous remercie parce que le plus dur, c'est la première question. Une fois que la personne pose une question, le reste suit.
Bon, je n'ai pas beaucoup étudié l'histoire du Portugal, mais j'ai deux questions. Alors, à quelle époque les femmes ont eu le droit de vote? Et puis, l'année suivante de révolution, est-ce qu'il y a eu une assemblée constituante pour rédiger la nouvelle constitution?
Merci beaucoup de ces deux questions. Alors, les femmes ont eu le droit de vote, toutes les femmes ont eu le droit de vote sans exception en 1975. C'était pour la première fois, et là, je réponds aux deux questions, mais je vais revenir sur les femmes spécifiquement quand même. Les premières élections libres au Portugal sont du 25 avril 1975. C'est la première fois que tous les hommes et que toutes les femmes, quel que soit leur niveau d'éducation, parce qu'il y a un moyen de limiter le nombre de gens qui votaient, c'était être alphabétisé. Et le Portugal était un pays où il y avait encore de 30 à 40% d'analphabétisme en 60. Donc un moyen de ne pas faire voter, mais c'est comme dans les régimes du 19e siècle, hein, dans les autres pays, c'était l'alphabétisation. Mais pour répondre sur les femmes, après je reviens sur la constituante, évidemment, au 19e femme, je dis évidemment, mais au 19e femme, les femmes ne votaient pas. Et la loi électorale en 1910 ou 1911, quand il y a eu la première république, disait qu'étaient électeurs les chefs de famille. Et lors d'une élection qui a suivi, il y a une femme, médecin, qui était extrêmement rare, les femmes médecins, vous doutez bien, diplômée, veuve, qui est allée au bureau de vote et qui a voulu voter. Alors elle a dit non, vous pouvez pas voter. Mais j'ai dit si, je suis chef de famille et je suis diplômée. Et donc en fait, parce que il était tellement évident pour le législateur que ceux qui votent sont des hommes, que personne n'avait indiqué sur la loi que c'était que les hommes, chefs de famille, qui votaient. Donc il y a eu ce cas, ils ont retiré les prochaines lois électorales, ils ont rajouté hommes. Et ça peut paraître étrange, alors je n'ai pas la date en tête, mais je crois que c'est 35, mais je pourrais vérifier. Sous la dictature de Salazar, quelques femmes ont pu voter. Et c'était les femmes notamment diplômées, mais c'était une minorité. Et en fait, les femmes diplômées venaient plutôt de milieux bourgeois, donc plutôt conservateurs. Et ça, il y a même eu des femmes députées, sous la dictature, mais qui était évidemment conservatrice. Toutes les femmes ne sont pas progressistes, ni tous les hommes, loin de là. D'ailleurs, moins que les femmes, souvent. Et pour la première fois, le droit de vote pour toutes et tous, âgés de plus de 18 ans, c'est 1975. Et pour répondre à votre question, effectivement, une des promesses du MFA, sur laquelle ils vont tenir, donc le programme du MFA de mars 1974, qu'ils imposent à Spinola, le soir du 25 avril, ils disent, nous faisons ce coup d'État pour redonner, ou plus vraiment pour donner la liberté au peuple portugais. Et au bout d'un an, il y aura des élections libres pour une assemblée constituante. Et le délai d'un an, il a été tenu parce qu'elles sont tenues le 25 avril 1975. En fait, elle a été, l'élection a été reculée à plusieurs reprises pour des raisons que je n'ai pas trop le temps de développer. Et je vais vous dire un chiffre qui, si on est entre démocrates, vous fera rêver. Donc c'est la première fois de l'histoire que la plupart des gens vont voter, la première fois de leur vie. Le vote n'est pas obligatoire. Une partie des militaires et le Parti communiste et le Parti d'extrême gauche disaient aux gens, bon, vu que, et ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez vécu sous le fascisme qui n'a pas développé la culture et qui n'a pas développé votre conscience politique, donc si vous ne savez pas pour qui voter, ne votez pas. Il y avait un peu ce discours à l'extrême gauche. Mais le 25 avril 1975, retenez ce chiffre, et comparé avec les prochaines élections européennes, 92% des Portugaises et des Portugais sont allés voter. 92. Bon, 91, virgule, et des brouettes, j'ai rajouté. 92%. Alors, maintenant, en règle générale, aux élections portugaises, le taux d'abstention est souvent de 40%. Donc, ça a été 92, c'était extrêmement important. Et c'était un signe extrêmement fort. Ça veut dire que la démocratie, certes, a été permise par les militaires. Et certains militaires disaient « Non, mais n'allez pas voter, on s'occupe de tout. Le MFA, nous, on sait ce que vous voulez. » Et le fait que 92% des gens aient voté, et les deux autres enseignements importants de ces élections, c'est que le parti qui arrive largement en tête est le Parti Socialiste, dirigé par Mario Soares, qui est un parti très jeune. Le Parti Socialiste a un an. Il est créé en 1973. Bon, il y avait un autre mouvement avant, mais le Parti Socialiste, en tant que tel, ne date que 1973. Ah, j'ai oublié mon moment d'histoire importante ici, mais... une des personnalités importantes que certains connaissent ici, il y en a plusieurs, hein, donc, quand on fait un choix. Mais notamment à l'université de Clermont-Ferrand, il y a eu enseigné pendant quelques années un des historiens les plus importants de l'histoire du Portugal. Ce n'était pas moi que j'ai pas enseigné à Clermont-Ferrand. Qui s'appelle Vitolino Magalhães Godinho, qui est un historien qui est un peu celui qui a représenté l'école des annales au Portugal. Donc il était enseignant à Clermont-Ferrand. Il a même créé avec d'autres personnes une association que vous connaissez peut-être, la Bibliothèque portugaise, qui a été créée en 1974, peu après la Révolution, qui est maintenant, je crois, un excellent club de football. Et donc, il a rejoint le Parti Socialiste et il a été pendant quelques semaines ministre de l'Éducation nationale. Donc, le PS qui arrive à 38%. Et l'autre enseignement, c'est que le Parti communiste, dont on pensait qu'il était extrêmement puissant, parce que c'est le parti qui avait une organisation clandestine, qui a été extrêmement vite, a pris le contrôle de la rue, dans les syndicats, même dans les médias, n'a fait que 12,5%. Ce qui explique après ce que je disais tout à l'heure très rapidement, les tensions qu'il y a eu entre une partie de la population dans le nord du pays, qui s'en prenait au Parti communiste en craignant que le Parti communiste, bien qu'il n'ait eu que 12,5% des voix, n'essaye d'imposer, ce qui n'était pas vraiment le cas, mais les gens le pensaient, une dictature communiste. Voilà. Merci de votre question.
Merci beaucoup pour l'excellente présentation. J'ai deux questions très rapides. Une, c'est le rôle des exilés portugais en France. Et l'autre, c'est le positionnement de la France avant le 25 avril et juste après le 25 avril, parce qu'il y avait des relations normales de coopération entre la France et le Portugal.
Merci beaucoup. Alors, le rôle des exilés, rapidement, comme vous le savez probablement, la France était le pays démocratique le plus proche du Portugal et une partie des élites portugaises étaient francophiles. L'exemple que je donne souvent pour montrer l'intérêt du Portugal en France en 1974-1975, en juin 1975, il y a eu, à l'époque, on n'avait pas le bonheur qui est le bonheur actuel, dont on ne se rend peut-être pas compte. C'est qu'actuellement, il doit y avoir 223 chaînes de télévision qui nous proposent autant de programmes qui élèvent notre culture générale. Et en 1975, il n'y avait que deux chaînes de télévision. Et donc deux chaînes de télévision, donc le choix était moindre. Et en juin 1975, Antenne 2, en premier début de soirée, c'est même pas à 23h, à 20h30 ou à 21h, en direct depuis Lisbonne, diffuse un débat entre Mario Soares et Alvaro Cunhal, qui tous les deux parlent un très bon français. Donc, pourquoi je dis ça? C'est pour montrer à la fois l'intérêt pour la révolution portugaise en France, le fait que, parfois, à la télévision, on peut s'intéresser au reste du monde, et que les élites portugaises étaient francophiles. Et donc beaucoup de jeunes et de moins jeunes, notamment de jeunes insoumis, de jeunes réfractaires, un des pays où ils allaient, c'était la France. Non pas que la France, alors on dit souvent la France terre d'asile. Déjà à l'époque, certains exilés disaient, on dit la France terre d'asile, mais c'est pas aussi facile que ça, pour avoir des documents, parce que beaucoup étaient surveillés par la police. Donc c'était pas toujours aussi simple que cela, mais la France a accueilli beaucoup de jeunes et de moins jeunes exilés. Et d'ailleurs, par exemple, en 1975, les trois principaux dirigeants des trois principaux partis politiques ont tous été exilés en France. Suárez, Cunhal et Medjugorje, qui est moins connu, mais qui était secrétaire général du PPD, qui était exilé en France depuis les années 30. Et donc, il y a eu beaucoup d'exilés, surtout dans les années 60, qui ont essayé de faire que la cause, leur cause à eux, soit connue. Parce qu'en fait, avant 1974, on connaissait très mal le Portugal en France. Salazar, et vous le direz, vous le verrez dans la biographie qu'a rédigé Yves Léonard, Salazar et la propagande, Antonio Ferre, donc le grand chef de la propagande, avaient réussi à passer l'idée que Salazar était un moine dictateur, qu'il était professeur d'université, que la dictature n'était pas violente, que le peuple portugais soutenait la dictature. Et souvent, il y avait une sorte d'opposition avec Franco. Et en France, la guerre civile avait marqué les consciences, notamment les consciences de gauche. Il y a un sentiment de trahison qu'ont senti une partie des gens de gauche. Franco, le général qui fusille pendant la guerre civile, les fosses communes, les différentes exécutions, il n'y avait pas ça au Portugal. Et donc, une des difficultés pour les exilés, c'était de faire connaître ce qui se passait au Portugal, les tortures, les prisons politiques, les massacres dans les guerres coloniales. Tout à l'heure, je vous ai parlé de José Malu Branco, qui était un chanteur, notamment, il avait fait plusieurs chansons pour dénoncer les guerres. Il y avait d'autres chanteurs qui, en France, chantaient parfois en français pour dénoncer les guerres. Donc, une de leurs causes, c'est cela. Essayer de médiatiser leur cause. Mais certains vont aussi essayer de profiter de la présence de quasiment 800 000 Portugais en France et d'essayer de les politiser, de leur faire comprendre pourquoi ils sont partis. Il y a des syndicalistes ou à Clermont-Ferrand qui ont essayé de politiser leurs camarades qui allaient travailler à Michelin. Ça n'a pas toujours été facile. Hein, parce que... Non seulement beaucoup de Portugais en France, leur rêve, c'était de rentrer au Portugal. Donc ce qu'ils voulaient, c'est pas faire de politique, parce que tout le monde craignait que la police politique soit présente également à Clermont-Ferrand, chez Michelin. Donc beaucoup de Portugais ont eu un profil bas, s'écartaient de ce qui a passé à la politique. Vous aviez aussi en France la police. Là, si dans l'ouvrage Le Creuset Clermontois, je cite des notes d'Hergé. Et une des choses que les patronats français et que la police française adorait chez les Portugais, ils travaillaient bien et beaucoup, et surtout, ils ne faisaient pas de politique. Et notamment, alors, peut-être que certains d'entre vous l'ont connu, il y avait, à Clermont-Ferrand, il y a aussi une autre chose importante, c'est le premier journal destiné aux émigrés portugais a été publié à Clermont-Ferrand, s'appelait « O Emigrant », publié par la mission catholique portugaise, avec monsieur le curé Alexandrine Cardoso, qui n'était pas un grand révolutionnaire et qui n'appelait pas vraiment les masses dans ses églises à Notre-Dame-du-Port à rejoindre les rangs de la CGT ni de la CFDT. Donc vous aviez aussi tout un contexte qui faisait que pour d'une part les exilés essayaient de politiser leurs compatriotes, mais que beaucoup de leurs compatriotes, mais il y a des exceptions bien évidemment, conservaient cette peur qu'ils avaient connue au Portugal. Et ensuite, pour répondre à votre question, ces exilés, ensuite, un certain nombre sont rentrés au Portugal. Pas tous. Certains sont restés en France, mais beaucoup sont rentrés. Je vous l'ai dit, Vitorino Magalhães Godinho est rentré au Portugal, Mário Soares, etc. Un des problèmes qui s'est posé notamment pour des gens qui habitaient à Clermont, c'est les jeunes insoumis, les jeunes réfractaires. Ils n'avaient pas fait leur service militaire. Et le 2 mai 1974, donc une semaine après la Révolution, la junte de salut national édicte un décret qui amnistie la désertion et le fait de ne pas avoir fait son service militaire. Mais l'amnistie, mais, et il y a un grand mais, ceux qui rentrent au Portugal doivent faire leur service militaire, et à l'époque, les guerres coloniales ne sont pas terminées. Et donc, beaucoup ne vont pas rentrer tout de suite au Portugal, parce qu'ils veulent pas, ils sont partis pour ne pas faire leur service militaire et pour ne pas faire la guerre, ils vont pas rentrer pour faire leur service militaire et faire la guerre qui n'est pas finie encore. Parce que Spinola, rappelez-vous, pour lui, c'est encore continuer la guerre jusque à... La guerre n'est pas finie vraiment pour Spinola. Et donc, un certain nombre de jeunes vont encore rester en France parce qu'ils vont attendre même parfois 76 pour pouvoir rentrer ou du moins sans avoir la crainte d'être arrêtés et qu'on les ou les oblige à faire leur service militaire. Mais donc, ces exilés, pour certains, vont avoir un grand rôle dans le monde politique au Portugal, mais dans le monde intellectuel. Je vous l'ai dit, Vitorino Magalhães Godinho rentre au Portugal, il est enseignant à l'Université Nouvelle de Lisbonne et va avoir une grande influence. Et même si... Alors, comme je suis à Clermont-Ferrand, je ne peux pas m'empêcher de dire cette anecdote. Vitorino Magalhães Godinho devient ministre de l'Éducation nationale en 1974. Et il est francophile et francophone. Mais c'est sous, et pour le grand désespoir de la diplomatie française, depuis 1968, il y avait une loi au Portugal qui disait que jusqu'en 1968, le français était la seule langue enseignée au lycée. Dites-vous qu'à l'époque, seules les élites allaient au lycée. La grande majorité des Portugaises et des Portugais n'atteignaient pas le lycée. C'est que les élites. Ce qui fait que si vous allez au Portugal et que vous voyez des gens de certains milieux sociaux, d'un certain âge, ils vont parler parfaitement français. C'est la seule langue. En 68, il y a un premier décret qui dit qu'au lycée, maintenant, on peut choisir entre l'anglais et le français. Le français n'est plus la seule langue. Et la France va toujours pousser, pressionner le Portugal pour leur dire « Non, non, il ne faut pas nous faire ça. Il faut que la France, le français, soit la seule langue. » Et comme à l'époque, et ça je vous permets de, comme ça je réponds à votre question, la France est un soutien du Portugal dans sa politique coloniale, vend des armes au Portugal, n'est pas trop critique à l'ONU vis-à-vis du Portugal, donc c'est un soutien. Le Portugal n'ose pas mettre l'anglais. Arrive la Révolution, Magalhães Godinho est ministre de l'Éducation nationale, et il y a ce décret qui est déjà là depuis 6 ans, et il va décider de l'appliquer. Et à partir de 1974, les lycéens peuvent choisir entre le français et l'anglais. Et vous imaginez l'ambassadeur qui était extrêmement heureux que le ministre de l'Éducation nationale portugais ait vécu en France, ne cesse de dire le plus grand bien de la culture française. Eh bien, c'est lui qui a mis en application un décret qui fait que maintenant, si vous allez au Portugal, vous allez encore avoir des gens qui parlent français, mais vous allez avoir beaucoup de jeunes et moins jeunes qui parlent un anglais excellent. Et donc, pour répondre à la fin de votre question, la France, au début, va voir avec beaucoup de sympathie la révolution. Parce qu'en plus, ça lui règle un problème. De plus en plus, les pays africains, Senghor, la Zambie, disaient arrêtez d'aider le Portugal, arrêtez de leur vendre des armes, parce que c'est une guerre anachronique, c'est une guerre injuste, etc. Donc au début, la France est plutôt contente, c'est un problème en moins avec sa politique africaine. Néanmoins, en 1975, et notamment à partir de mars 1975, quand une partie de l'économie est nationalisée, quand certaines entreprises et certaines entreprises françaises sont occupées par les ouvriers, oui, merci. bonne route. Sont occupés. Évidemment, la France de Valéry Giscard d'Estaing va prendre peur. Et la France de Valéry Giscard d'Estaing va être, notamment en juillet 1975, va refuser que la CE aide financièrement le Portugal. En disant, on n'aide pas le Portugal tant qu'il n'est pas en chemin vers une démocratie pluraliste. En septembre, je ne vais pas vous raconter les détails, le Portugal reprend le chemin d'une démocratie pluraliste et la France, de nouveau, soutient plus le Portugal. Mais en France, il y a eu Giscard d'Estaing était un des rares gouvernants à l'époque qui était de droite et non pas de gauche. Et c'était lui qui a vu, avec le plus de crainte, le fait que le Portugal puisse devenir un régime à gauche. Mais au final, ça n'a pas été le cas et la France et le Portugal, depuis, entretiennent des bonnes relations. Et d'ailleurs, il semblerait qu'Emmanuel Macron ait été avec le président Biden le seul président étranger à faire un message qu'il a posté sur les réseaux sociaux où il félicite et il commémore la révolution des œillets en français, ce qui montre toujours l'intérêt que la France porte au Portugal.
Merci. D'autres questions ?
Micro. Je crois que c'est enregistré pour que ça reste pour la postérité, l'histoire. Dans 50 ans, quand on se dira comment on a commémoré.
Oui, c'est quand même assez étonnant qu'avec toutes nos chaînes de télévision, par exemple Arte qui nous parle d'Europe, n'a pas réussi quand même à nous faire même une journée sur le 25 avril.
Alors, hein? Je suis pas... Oui, mais je ne suis pas producteur d'Arte, mais il y a une émission.
Oui, il y en a une aussi qui est passée, elle était 0h45, je vais la regarder en replay. Mais si vous voulez, ça me paraît quand même un peu incroyable. Enfin, pour moi, Arte n'a plus beaucoup de qualité. Quand même, c'est important. C'était un pays d'Europe. C'était un renversement que, parce qu'on dit la France, là, mais il est français. Moi, je me souviens de ma joie, je peux le dire. Je suis juste française. Et de penser qu'une télévision qui se targue d'être si européenne n'a même pas réussi à faire une journée. Ça aurait mérité une journée. C'est quand même 50 ans. 50 ans, on admet que c'est quand même un anniversaire important pour tous les... Donc, ils n'ont pas fait ça. De toute façon, ils ne parlent... Alors, ça, c'est... Ils parlent que des pays avec des clichés et tout ça. Voilà, ça, c'est quand même dommage. Moi, je trouve que... Alors, je peux aussi... maintenant, la presse écrite n'a plus aucune importance. Je pense nulle part, d'ailleurs. Ou tellement peu, mais moi je me souviens par exemple du Nouvel Observateur qui était vraiment un journal de gauche. Bon, le Portugal ça comptait, hein. Moi j'avais lu plein d'articles sur le Portugal, c'était vraiment important. Voilà, c'était le passé. Mais franchement, quel regret de. Bon, alors Arte l'a pas fait, mais les autres chaînes non plus, et puis voilà.
Merci beaucoup. Alors,
pardon.
Ouais, mais je vais juste peut-être répondre. Et, oui. Juste, alors, je suis pas producteur chez Arte, mais Arte a consacré un ou deux documentaires au Portugal. Et moi, je verrais peut-être. Alors, on peut l'avoir la bouteille à moitié vide ou à moitié plein. Mais hier soir, alors c'était tard, mais maintenant avec le replay, France Télévisions, genre, je l'ai pas vu encore, a consacré un documentaire sur la Révolution. Histoire TV. Moi, j'ai pas Histoire TV, mais je sais que j'y ai parlé. A consacré un 52 minutes. Et je crois que France 5. Donc, il y a plusieurs choses. France 5 ici. Il y a eu trois journaux français qui ont consacré une partie de leur une aux 50 ans. Libération, l'Humanité, et la Provence. Et Yves et moi, alors Yves a perdu sa voix, Yves Léonard, a perdu sa voix le 25 avril au soir, à force de trop travailler, de trop parler aux journalistes. Et moi-même, vous parlez de Nouvel Obs, j'ai parlé une heure avec le Nouvel Obs. Donc, je voudrais bien qu'Arte consacre une journée entière au Portugal, voire une semaine. Ou par exemple la FNAC Saint-Lazare, qui n'est pas la plus petite FNAC de France, a pendant une semaine organisé chaque jour un débat sur le Portugal. Donc, et aujourd'hui, les librairies des Volcans, que je remercie encore, nous permettent de parler ici. Donc soit la bouteille à moitié vide, moi je la verrais plutôt pleine, j'ai l'impression. Et que notamment, je vous parlais du... Alors, c'est pas, et je pense que Yves aussi, il y a eu plusieurs ouvrages qui ont paru sur la Révolution. Tu as là un autre ouvrage que tu peux montrer, peut-être, qui est l'ouvrage de Hugo Paglietta sur Découvrir la Révolution des œillets, publié aux éditions sociales. Moi, je trouve qu'il y a un vrai intérêt authentique. Il se trouve que, à force, beaucoup d'intérêt se porte sur moi, sur Yves et sur Hugo et d'autres. Mais ce serait moins dur avec nos médias. Je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Mais... voilà, mais ça c'est la bouteille, comment on la voit.
Une autre question.
Mais je pense que la France est le pays où on en a plus parlé, de loin, mais de très très loin.
Bonjour et merci beaucoup pour votre intervention. Moi j'ai une question purement pratico-pratique. Ce serait concernant les sources que vous avez utilisées. Vous avez parlé de l'INA et c'est vrai qu'on a une grande chance en France d'avoir un fonds d'archives aussi riche. Et voilà, tout simplement, savoir quelles sources vous avez utilisées pour ce livre. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je sens la question de l'étudiante en histoire, non ? Oh, c'est bien. Alors, non, mais c'est... Désolé, je ne voulais pas vous... effectivement, alors, c'est en partie, comme tout travail, une synthèse. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont paru au Portugal. Et en fait, l'histoire de la Révolution, elle commence quasiment quelques semaines après la Révolution. Quelques semaines après la Révolution des œillets, il y a déjà des livres sur la Révolution des œillets. Et en plus, ils sont extrêmement bien informés parce qu'en fait, ils ont fait des entretiens avec les militaires. Ensuite, il y a un ensemble de la plupart des grands leaders politiques, des leaders militaires, ils ont rédigé leur mémoire. Donc, on a ces sources-là. Mais notamment, moi, ce que j'ai voulu faire, alors, c'est pas un livre sur le regard français sur la Révolution, mais comme je suis en France et que je m'adresse à un public français, j'ai beaucoup utilisé les sources de la Courneuve, donc du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères, qui a suivi très, très attentivement la Révolution. Et donc, notamment, l'ambassadeur français suivait au jour le jour, ou heure à heure, ce qui se passait au Portugal. J'ai aussi, l'autre histoire locale, j'ai aussi, au bout de 10 ans, accédé aux archives d'un certain Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, à partir de mai 1974. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a pris 10 ans pour obtenir accès au fond du présidentiel, Mais donc j'ai vu les notes qui étaient adressées à Giscard d'Estaing, qui sont extrêmement intéressantes. Et j'ai aussi beaucoup utilisé donc, les archives portugaises du ministère des Affaires étrangères portugais. Les archives, alors pour la période avant la dictature, avant la révolution de Salazar, il y a une petite partie sur Salazar. Et aussi, ça c'est moins le cas en France, mais aux États-Unis, ils ont une politique de numérisation et de mise en ligne des archives depuis très longtemps. Et donc, vous pouvez consulter plein de choses. Alors, 74, pour eux, c'est loin. Donc, tout n'est pas déclassifié, tout n'a pas été numérisé. Mais vous pouvez, notamment, il y a une... Alors, je n'ai pas eu le temps, mais je traite aussi, évidemment, la décolonisation. Et il y a eu un moment extrêmement dur de la décolonisation. C'est qu'en 76, enfin 75, pour être plus précis, l'Indonésie envahit un territoire qui était portugais, qui est Timor, Timor oriental, l'envahit avec... le soutien implicite des États-Unis, donc je cite les documents où Kissinger et Gerald Ford disent « on vous comprend et on ne fera rien ». Et c'est dramatique parce que ensuite l'annexion de Timor dans l'Indonésie va, certains parlent de génocide, un quart de la population aurait été tuée. 500 000. Donc c'est extrêmement dur. Et comme vous le savez peut-être, le Timor n'est seulement devenu indépendant au début du XXIe siècle. Donc les sources aussi, il y a quelques sources américaines numérisées. Merci. Alors, on ne vous oublie pas, vous n'inquiétez pas.
Moi, je n'aurais pas de questions. Je ne sais pas l'étudiante en histoire.
Moi, je l'ai été aussi. Hein. Je m'aurais posé la même question.
Donc, voilà. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappée dès le départ dans votre livre et que vous dites tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure. Ces balles qu'on efface, ces hôtels de luxe qu'on construit, alors je dirais un peuple, mais surtout des Lisboètes qui ne disent rien, ça me semble un peu étrange. Est-ce que ça s'explique? Alors je vous dis ça aussi parce que moi, en tant que riomoise, là il y a un débat sur les friches carcérales où a été emprisonné Jean Zay, donc c'est important pour nous les riomois. Là ça m'a un peu, j'ai pas compris, est-ce que la population se désintéresse? Et l'autre question, c'est pareil, hein, je crois que c'est dans les débuts, vous parlez du nom de Slash Cade, qui n'apparaît que depuis quelques années, alors que moi je pensais que depuis le départ, c'était on savait tout, comment ça s'était passé. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'histoire et à côté quelque chose qu'on efface et personne ne dit rien? Est-ce que ça s'explique?
Je pense que notamment quand vous parlez de la mémoire de la Révolution et de la dictature, il y a eu en 2004 une polémique au Portugal. Il n'y a eu aucune polémique. Alors, je n'ai jamais retrouvé. Peut-être qu'à un moment, quelqu'un va me dire, mais s'il y a une polémique, je n'ai jamais trouvé aucun article. Mais en 2004, il y avait le siège de la police politique. Donc là où il y a eu des morts le 25 avril, au soir, où la police politique, face à la foule qui l'entourait et qui voulait éviter que les agents de la police politique fuient, et ont ouvert les fenêtres et ont tiré sur la foule, tuant 4 personnes et en blessant 50 autres. Cet immeuble, donc la rue Antonio Maria Caldos, si je disais ça avant le 25 avril 1974, Antonio Maria Caldos, c'est le nom de la rue, en plein centre de Lisbonne, en plein centre culturel à côté d'un théâtre, des gens auraient des frissons au Portugal, des frissons de peur. Parce que si on vous disait, si tu continues comme ça, tu vas à rue Antonio Maria Caldos, ça veut dire que tu seras arrêté, probablement torturé et emprisonné. Eh bien, ce bâtiment, qui est un très beau bâtiment en l'occurrence, n'appartenait pas à l'État, appartenait à la dynastie des Braganses, ancienne monarchie, des familles monarchiques. Et en fait, en 2004, alors là, moi, c'est des choses qui me dépassent un peu, mais pas tant que les gens qui ont le bâtiment veuillent le vendre, ça, je peux le comprendre, mais des promoteurs immobiliers, comme il y en a tant, ont voulu et ont acheté le bâtiment pour le transformer en logement de luxe. J'imagine que ce soit très agréable d'habiter dans un appartement où 55 ans auparavant, des gens ont été torturés et tués, probablement. Et donc, il y a évidemment eu une mobilisation d'anciens, notamment d'associations d'anciens emprisonnés, d'anciens résistants à Salazar, qui ont dit que c'était inconcevable qu'on transforme ce siège de la police politique en logement de luxe, ou même pas de luxe d'ailleurs, que ça ne soit pas un lieu de mémoire consacré à la dictature et à la répression. Et en fait, ils n'ont obtenu... Alors, maintenant, si vous y passez, vous verrez un très beau bâtiment, tout restauré, comme l'est en grande partie Lisbonne, Et je crois qu'au rez-de-chaussée, le magasin s'appelle Empathie, ce qui est d'un humour extrêmement noir pour un bâtiment qui est quand même basé sur une très faible empathie vis-à-vis du passé, de la souffrance de milliers de personnes. Et il y a une mobilisation qui n'a pas empêché que ce lieu devienne ce qu'il est devenu. Néanmoins, on a obtenu, je pense que c'est ce que tu voulais montrer. Ah non, c'est pas ce que tu voulais montrer. Il y a une plaque qui était sur le bâtiment qui a indiqué les noms des 4 personnes qui ont été tuées. Et la municipalité, à l'époque, c'est ensuite António Costa, donc maire de Lisbonne, puis Premier ministre, ont mis une petite plaque qui... Mais il faut vraiment la voir. Hein. Moi, j'ai pris des photos. Il faut vraiment savoir qu'elle est là, cette plaque, qui dit que ce lieu a été le siège de la police politique, que des personnes y ont été torturées, y ont trouvé la mort, et que des personnes ont été tuées le 25 avril. Néanmoins, à cause de cette mobilisation, le maire de Lisbonne a fait que, juste à côté de la cathédrale de Lisbonne, en plein Alfama, il y avait une prison politique qui a été ouverte des années 20, qui existait déjà d'ailleurs, mais jusqu'en 1966, a été une prison politique où étaient emprisonnés les gens quand ils n'étaient pas interrogés. Ça s'appelle, et c'est devenu le, c'est, ça s'appelle le Aljoub, et c'est devenu le musée de la résistance et de la liberté que vous pouvez visiter et que je vous conseille à visiter. Et il y a eu aussi eu une autre mobilisation, et en fait c'est très présent, c'est, on est le 29, il y a 2 jours, à une des anciennes prisons politiques où étaient envoyés pendant de longues années à des prisonniers, dont Alvaro Cunhal, qui s'en est échappé en 1960, c'est à Péniche. Et ce fort de Péniche, qui était extrêmement humide, extrêmement froid.
Pardon, là je suis dans le sujet.
Merci. Et cet fort de Péniche, normalement il y avait un projet d'hôtel. Donc, grosso modo, c'est simple, à Lisbonne, dès que vous avez une ruine, ça va devenir soit un Airbnb, soit un hôtel. C'est soit l'un, soit l'autre. Et donc, c'est un hôtel, et il y a de nouveau une mobilisation pour empêcher que Péniche ne devienne un hôtel. Et depuis 2 jours, vous avez un musée de la résistance à la liberté qui a ouvert ses portes et que vous pouvez visiter à Péniche. Et donc, là aussi, je vais faire mon côté normand, parce que je suis normand d'origine, où le verre à moitié vide, moitié à moitié plein. Effectivement, il y a à Lisbonne... Moi, par exemple, je suis vraiment pas sûr que le fait qu'ils aient ravalé la façade soit pour cacher le 25 avril. Je pense qu'il y a d'une part cette idée qu'il faut restaurer tout, que la ville soit mignonne, etc. Et qu'il y a aussi, je pense, l'idée, si moi, en tant qu'historien du 25 avril, ce qu'on me dit spontanément, est-ce que les gens connaissent spontanément, ah, c'est beau cette révolution pacifique où il n'y a aucun mort. Je passe mon temps à dire, hélas, il y a eu 5 morts, c'est peu dans une révolution, hein, et c'est 5 morts de trop, mais il y a eu des morts en fait. Et en fait, ce qui est souvent dans le discours, c'est une révolution pacifique. Et en fait, ces impacts de balles, ils faisaient un peu tache dans une révolution pacifique qu'on voit que la violence aurait pu être utilisée. Mais si vous rentrez à l'intérieur de la gendarmerie, il y a un musée de la gendarmerie, et en fait, ils ont conservé des livres qui ont été impactés par des balles. Ils ont gardé des meubles qui ont été impactés par des balles. Mais il faut rentrer à l'intérieur et le voir. Et en fait, je ne pense pas qu'il y ait une volonté d'effacement du 25 avril. Je pense plutôt qu'il y a une ville, et un pays d'ailleurs, qui depuis 15 ans est... comment dire ça? Parce que j'ai un député de l'Assemblée de la République devant moi, donc il faut que je fasse attention. Je ne sais pas que je risque grand-chose, mais c'est qu'il faut que je sois plus exact. Mais où les intérêts financiers et la spéculation immobilière passent devant d'autres intérêts. Et même vous... Là, vous me disiez, mais comment les Portugais ne protestent pas? Moi, je pense que, je ne suis pas spécialiste de sociologie électorale, hein, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis, hein, mais que l'extrême droite passe de moins de 1% à 18%, je ne pense pas que tout d'un coup, les gens se sont réveillés nostalgiques de Salazar. Pas du tout. 25% des jeunes gens qui ont voté pour l'extrême droite. Moins de 10%, je crois que c'est 6 ou 7% des jeunes, ont voté pour le Parti socialiste. Je ne pense pas que ces jeunes veuillent un retour d'une dictature qu'ils n'ont jamais connue. Je pense néanmoins que ces dernières années, le prix de l'immobilier, je crois que c'est au Portugal entier, a augmenté de 80%. Parallèlement, les salaires n'ont pas augmenté de 80%. Il est très difficile maintenant pour un jeune d'avoir un emploi pas trop instable, pas trop précaire, bien payé, et de pouvoir vivre hors de chez papa-maman relativement jeune. Et ça crée des frustrations, des insatisfactions, etc. Et effectivement, cette spéculation, ce fait que ce pays s'est extrêmement tourné vers le tourisme, a essayé d'attirer des investisseurs étrangers Si vous allez à Lisbonne, vous croiserez certains de très sympathiques compatriotes qui ont raison, qui ont investi dans ce beau pays, mais qui ont fait flamber le prix de l'immobilier. Et donc je pense que notamment dans ces histoires de logement, dans ces histoires de ravalement, il n'y a pas une volonté consciente politique. Il y a peut-être un désintérêt, un manque. Je pense que la France, nous, on est un pays très conscient de notre patrimoine. Et vous parlez de Rion. On est très conscient de notre patrimoine historique et on sait que l'histoire, c'est important. Au Portugal, est-ce que c'est si important ces balles pour des touristes américains qui... pas vraiment, en fait. Et donc, je pense que sur ça, il y a un désintérêt qui est grave, mais je ne pense pas que ça réponde à une volonté de l'effacer. Il y avait une question. Et monsieur se lève pour venir. Il veut poser la question.
Je veux essayer une question en essayant d'être prudent de la poser. Donc, je serai... C'est pas trop le problème des députés. C'est la part, vous parlez des exilés, etc., la part des immigrants ou des immigrés, de ceux qui, dans ce qui se passe aujourd'hui, il me semble avoir compris qu'ils avaient pris une part, pour ceux qui votent, hein, au Portugal, une part importante du phénomène d'extrême droite, Chega, etc.
Vous parlez des Portugais à l'étranger ?
Des Portugais vivant ici en France, qui sont restés portugais et qui participent à la vie portugaise et à ses décisions. Et est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur ce que vous en savez, vous, de ce Portugal, hors les murs, je dirais, et qui participe de ce qui se passe sur place en étant portugais et en l'étant plus tout à fait ou encore d'une autre manière, la participation de cet électorat-là dans ce qui se passe actuellement.
Merci. Donc, depuis 1976, le Portugal compte 4 députés qui représentent les Portugais qui vont à l'étranger. 2 pour l'Europe, dont un des députés est ici, et 2, un pour l'Amérique et un pour le reste du monde, notamment Macao. Alors, une chose, là, vous parlez de participation, un préalable, c'est plutôt non-participation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La grande majorité des Portugais qui vivent à l'étranger ne participent pas aux élections. Les dernières élections, où on peut voter par correspondance, ont été les élections, et je parle sous contrôle, mais je ne pense pas me tromper, les élections qui ont été les plus... où il y a plus de Portugais étrangers ont participé. Mais le taux d'abstention est autour de 80%. Il n'y a que 20% des Portugais qui vivent à l'étranger qui votent. Donc, plus que parler de participation, on doit plutôt s'interroger sur la non-participation. Pourquoi, dans ce 1,5 million de Portugais qui sont considérés comme Portugais et qui ont le droit de vote, il n'y en a que 20% qui votent. Ça, c'est la première question. Et là, on pourrait en avoir pour très long. Le fait va, ce qui est intéressant, c'est que ces gens ne votent pas, mais sont très attachés pour beaucoup au Portugal. Et ils vont, ils passent une partie de leurs vacances, ils investissent, etc. Il y a à la fois un vrai attachement, mais un désintérêt pour la vie politique qui est important. Après, donc, là, je vous ai dit que 80% ne votent pas. Parmi les 20%, il y a effectivement donc, le parti d'extrême droite, Chega, qui a réussi à élire sur ses 4 députés à l'étranger 2. Un en Europe et un en Amérique. Et là, je vais... Au Portugal, notamment dans les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de débats sur ça, avec l'idée que je vais résumer à la SERP. Mais ils sont quand même bêtes, ces Portugais immigrés, parce qu'eux-mêmes, ils ont été immigrés, et ils votent pour un parti qui est contre l'immigration. Et notamment, ils ont pris l'exemple du député, qui a été élu, que je ne connais pas personnellement, mais qui... la presse, on a fait ses choux gras ensuite... qui est un Portugais qui a immigré en France en 76, si je ne m'abuse, après la Révolution, et qui a été expulsé 2 fois de France, parce qu'après 74, les frontières ont été fermées. Il a été expulsé 2 fois, et il a pu rester en France par les régularisations qui ont été opérées par François Mitterrand en 1980. Et les principaux bénéficiaires des régularisations de François Mitterrand en 80, c'est les Portugais. Parce qu'en fait, beaucoup de Portugais continuaient à venir irrégulièrement. Et donc, effectivement, les médias portugais se sont gossés. Quel est cet émigré qui lui-même a été expulsé et qui a été régularisé par un gouvernement de gauche, qui maintenant dit le discours de Chega. Le discours de Chega, au Portugal, c'est un peu différent, en fait. Et à la limite, c'est très intéressant pour un Français de voir à quel point on est très, 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 très loin dans un discours anti-immigration en France. Parce que même le propos de Chega officiellement... c'est de dire le Portugal a besoin d'immigrés, mais il faut qu'ils viennent légalement. En France, on n'en est même plus là. On n'en est même plus qu'ils viennent légalement, pas illégalement. C'est qu'il faut prendre des charters, il faut renvoyer tout le monde chez eux. On en est à un autre niveau. Eux, ils en sont encore officiellement à
le Portugal a besoin de main-d'œuvre pas chère qu'on doit exploiter, mais il faut qu'ils viennent légalement. C'est ça le discours. Ils ne disent pas qu'il ne faut pas qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent légalement. Et qu'il faut les choisir. Bon, vous connaissez ce discours. Mais donc, moi, ce discours me gêne un peu. Pourquoi ? Parce que, alors c'est peut-être le fait que j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration portugaise, ce discours au Portugal, les personnes d'origine portugaise ici me comprendront, les autres ne me comprendront peut-être pas, et ce sera peut-être difficile à comprendre. D'un côté, les émigrés portugais ont été représentés comme des héros. Toutes les villes ou tous les villages portugais ont une statue en l'honneur des émigrés, où vous avez souvent un homme avec une valise accompagné d'une femme et d'un enfant. Et pour le Portugal, on répète sans cesse que vous avez été extrêmement important, parce que d'une part, vous êtes victime de la dictature, vous avez fui le Portugal, et vous êtes parti à l'étranger, et vous avez continué à soutenir le Portugal en envoyant de l'argent, vos économies, etc. Et avant la Révolution, les remises des émigrés, c'était 8% du PIB portugais. Et après la Révolution, on leur a dit, surtout, ne rentrez pas tout de suite au Portugal, parce qu'on a besoin de vos économies, de vos francs, etc. Donc d'un côté, il y a un discours extrêmement valorisant, qu'on retrouve et que monsieur le député doit répéter très fréquemment. J'en doute pas, et qu'il le croise, je ne mets pas ça du tout en cause. Mais d'un autre côté, les émigrés portugais, et ceux qui le connaissent le savent parmi moi, sont la victime d'un mépris au Portugal. C'est-à-dire qu'on leur a tout reproché. On leur a reproché leur maison, trop grande, le pavillon qui manque de goût, qui détruisent le territoire. Et la voiture, trop grosse, trop vite, qui tue des gens tout le temps. Comment ?
On a vu un film sur le sujet, Alma Viva.
Ah, très bien, je ne l'ai pas encore vu.
Et un autre, tu te souviens, Pascal ? Volta a Terra.
Merci. Donc, des conseils cinématographiques, Alma Viva, de Christelle Mail, que je n'ai pas encore vu, et Volta a Terra, que je ne connais pas. On leur a reproché la façon dont ils parlent, parce qu'ils ne parlent plus vraiment portugais, ils ne parlent pas vraiment français, et en fait, ils ont ce que notamment le comédien qui est passé à Clermont-Ferrand un peu appelle le frantugais. Un mélange. On leur reproche le fait de ne pas avoir enseigné le portugais à leurs enfants. On leur reproche le fait d'avoir des goûts culturels qui ne sont pas appréciés. Ce qu'on appelle la muscapimba. Tony Carrel, qui est maintenant le grand chanteur portugais, il a subi ces sarcasmes. Et maintenant, le discours qui est « Ah, mais maintenant, ils sont tellement idiots, immigrés, ils votent pour un parti. » Moi, j'ai toujours du mal avec ce discours qui est...
Non.
Oui, mais attends, bien sûr, mais je termine, je n'ai pas encore terminé. Et donc, j'en arrive à... Il faut relativiser, parce que si vous regardez le nombre d'électeurs du parti Chega, d'électeurs... Alors après, il y a un autre truc, c'est qu'une partie des votes ont été invalidés, pour des raisons que je passe. Mais le nombre d'électeurs de Chega qui ont élu ce député, c'est 60 000 personnes. 60 000, c'est beaucoup. Mais moi, je mesure tout avec une unité de valeur, qui est une unité de valeur la plus importante au Portugal, qui est au Stadio da Luz, le stade de Benfica, qui est 65 000 habitants. Donc je peux mettre tous les électeurs de Chega dans ce stade, qui représentent 1 500 000 Portugais à travers le monde. Donc passer de 60 000 Portugais votent pour l'extrême droite à ils sont 1 500 000, il y a un grand... Après, je vais prendre très au sérieux votre question. Pourquoi les gens votent pour ce parti ? Et en fait, il n'y a pas de sociologie électorale. Parmi les gens qui partent, qui vivent à l'étranger, vous avez des gens qui ont émigré il y a peu, il y a 10-15 ans. Et il y a eu... Après la révolution des œillets, il y a eu le discours « Nous sommes en train de construire un pays où vous n'aurez pas besoin de partir, vous n'aurez pas besoin d'émigrer, qui va devenir un pays moderne, où vos enfants n'auront pas besoin d'émigrer. » Et quand il y a eu la crise de 2008, les effets ont été extrêmement terribles au Portugal. Il y a une hausse de la Troïka, hausse du chômage. Et il y a même un Premier ministre de droite, Pedro Passos Coelho, qui a invité les Portugais à émigrer. Et ça, ça a été vu comme extrêmement douloureux pour les Portugais, qui est, nous, on pensait que le pacte était que certes, on pouvait émigrer comme Cristiano Ronaldo pour être expatrié, mais pas qu'on soit obligé à partir. Et donc, parmi des électeurs, moi, je ne mets pas de côté qu'il y a des électeurs de ces dernières années qui sont... Le discours de Chega, c'est quoi ? Pourquoi Chega fait 18% ? Alors, c'est pas parce qu'ils sont tous nostalgiques du régime, ils ne sont pas tous racistes. Et il y a des racistes qui votent pour Chega, mais aussi des racistes qui ne votent pas pour Chega. Mais ce qui tient, c'est son succès, c'est la corruption et cette idée qu'une partie des élites sont corrompues et qu'une partie des gouvernants ne gouvernent pas pour les Portugais. Et donc je pense que parmi ces 60 000, notamment en Suisse, qui est là où le score a été le plus important, vous avez des gens qui sont quittés les dernières années et qui ont la dent dure contre le PSD et contre le PS et qui disent « il faut un autre parti ». Il y a aussi un autre discours qui est, comme vous le savez, en France, on adore les Portugais. Et moi, tout le temps, j'ai l'habitude. Je dis que je travaille sur les Portugais, et des gens le disent de bonne foi, hein, je ne mets pas ça en cause. Ah, j'aime beaucoup les Portugais parce que c'est les mieux intégrés. Et moi, quand j'entends cette phrase, je dis tout de suite, mais si vous dites qu'elle est mieux intégrée, ça veut dire qu'elle est moins intégrée. Quand vous dites les Portugais sont les mieux intégrés, implicitement, vous ne me parlez pas des Portugais. Vous me parlez de la migration maghrébine, de la migration africaine, dont vous êtes en train de me dire qu'elle est moins intégrée. Et moi, je ne vous dis pas que les Portugais ne sont pas ou bien intégrés, et je pense que, notamment, la population maghrébine ou d'origine maghrébine est très bien intégrée en France. Ce n'est pas le souci. Et donc, mais ce discours qui est « vous êtes les meilleurs immigrés » ou « les immigrés modèles », je suis convaincu qu'une partie des Portugais eux-mêmes l'ont adopté. Et parce qu'il est valorisant. Et je veux bien croire qu'une partie de mes compatriotes en France vote pour l'extrême droite, parce que, comme vous le savez, l'extrême droite en Europe a un peu glissé son discours. C'est pas seulement c'est plus de la défense des Français, c'est la défense des Européens. Et donc, dans la défense des Européens, contre la dite vague, la submersion, l'invasion, le grand remplacement et toutes les... des choses qui est même incroyable qu'on le dise maintenant, que je dise ce mot grand remplacement, quand il n'y a même pas 10 ans, c'était 3 nazis dans une cave au fin fond d'une cave qui parlaient de grand remplacement. Maintenant, on en parle tous, les gens sont en train d'en parler, alors que c'est une idée qui était nazie, qui est toujours nazie d'ailleurs, mais qui était réservée. Mais une partie de Portugais en France, des descendants de Portugais, ont évidemment, ils sont pas mieux que les autres en fait, ou moins bien que les autres. Ça veut dire qu'on est comme dans une Europe où l'extrême droite a pris une importance considérable, et que donc, parmi ces 60 000 personnes, il y a des personnes qui croient qu'il faut défendre la civilisation européenne contre les autres. Mais encore une fois, et c'est pour ça que j'ai fait ce long, c'est 60 000 électeurs. Je ne dis pas qu'aux prochaines élections, ils ne seront pas 200 000, 500 000, etc. Hein, mais c'est loin d'être le cas que tous les Portugais, en France ou à l'étranger, qui votent, et je vois que le micro bouge à côté de moi, votent pour l'extrême droite.
Voilà, oui, il est important, je ne dirais pas le contraire, de garder une échelle de valeur en tête. Il nous reste, on voudrait, je pense parmi vous, consacrer un petit peu de temps pour faire une rencontre dédicace, donc que tu puisses, Victor, dédicacer.
Et je peux répondre à vos questions en privé.
Mais on peut prendre encore peut-être deux questions, oui.
Je reviens vers vous.
Question rapide, réponse, pardon, Victor.
On va être expulsé de la librairie à 19h, je vous préviens.
Non, comme on est dans une librairie, j'ai pensé, est-ce qu'il y a des romans portugais qui seraient... Des romans, des romans portugais traduits en français, parce que moi, là, je ne pourrais pas... Qui représente bien ce moment du 25 avril, je ne sais pas comment vous dire, l'atmosphère qu'il y a eu dans ces années-là et tout.
Alors, je vais en citer deux.
Deux.
Merci. Un qui est très connu et qui est traduit en français, qui s'appelle Les Mémorables, de Lydia Georges. Je suis sûr qu'il est là. Donc, Lydia Georges, Les Mémorables. Et notamment pour comprendre la Révolution, et notamment la Révolution dans le sud du pays, un ouvrage d'un auteur que je vous conseille dans toute la littérature, mais qui est José Saramago, le prix Nobel Littérature 98, et Relevé de terre, qui est un roman fantastique, qui est une fresque sur 3 générations de prolétaires agricoles de l'Alentejo et qui se termine sur la Révolution. Donc vous comprenez parfaitement la Révolution, donc Relevé de terre, et je suis sûr qu'il est en point seuil, que vous trouverez dans cette excellente librairie.
Très bien, merci.
On va prendre votre question, madame, et puis après...
Moi, je veux bien signer des bouquins.
Alors, c'est parti pour la dédicace.